BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles, de faire de vous des meilleurs investisseurs et des meilleures investisseuses. On est à la radio, à la télé, sur le web, en direct de 10h à midi. Et puis on est aussi en podcast à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Nous sommes jeudi 21 mars. Gros programme ce matin. D'abord, on va vous aider à acheter votre maison, peut-être en live streaming. C'est un peu le téléachat version internet et en direct. C'est ce que va nous présenter Johan Lopez de Snowball dans quelques minutes. On va se demander si c'est le bon moment de rentrer sur les marchés actions ou est-ce qu'il faut privilégier les obligations. C'est notre CGP Géraldine Métifeux d'Alter Egal qui sera avec nous pour vous éclairer dans une dizaine de minutes. À 10h30, votre dose d'économie. On va décrypter le record de lutte contre la fraude fiscale. Alors il faut se méfier des gorges chaudes qu'on fait sur ce genre de record. On détecte mieux, oui, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est ce que va nous dire Nicolas Dose. Et puis côté bourse, Antoine est en train de se connecter du côté d'Euronext. Et nos deux traders pour suivre la séance du jour dans le match des traders dans quelques minutes. À 11h15, on parlera d'immobilier. C'est le match des villes aujourd'hui avec l'équipe de Net Investissement, Rennes versus Rouen. Oui, une vraie bataille d'un côté, la capitale bretonne, et puis de l'autre, la belle ville normande. Le question-réponse du jour portera sur la finance durable qui nous intéresse. Mais il existe un gros paradoxe, vous l'incarnez souvent, entre la demande et la confiance des épargnants. Alors comment construire des normes et des labels cohérents? C'est l'investisseur Eric Blin qui sera avec nous pour réfléchir sur l'accès à l'éducation financière et parafinancière qui nous aiderait à avoir un meilleur regard sur la finance durable. Et puis enfin, on se demandera si investir dans le para-hôtelier, voire dans le co-living, sont des bonnes alternatives à la crise du logement. Est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, pas alternative, mais solution à la crise du logement, on va dire. Est-ce que c'est une bonne idée? Réponse de Jonathan Anglove d'Agusso Capital en fin d'émission. Et puis entre tout ça, il y a vous, chers auditeurs, auditrices, vous nous écrivez, l'adresse est directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, je suis connectée, je vous lis pendant l'émission. Il est l'heure de partir rejoindre Antoine du côté d'Euronext.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance, avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Antoine, on vous retrouve record à l'ouverture pour notre CAC 40. Mais bon, depuis, on modère un petit peu l'allure là à 10h07.
Ouais, 8229 points effectivement, un nouveau record à battre, mais depuis c'est vrai que c'est un peu étiolé la tendance. On reste en hausse, plus 0,18%, on est à 8176 points, mais alors très belle performance de la techno, hein. L'Euronext Tech Leader est vraiment en forte hausse, hein, plus 2%, le DAX à Francfort un petit peu plus décidé, plus 0,6%, plus 0,7% pour l'Eurostoxx 50, début de séance pas ordinaire quand même, parce que bon, si le marché est en hausse et a atteint de nouveaux records, c'est parce que Wall Street elle-même a clôturé sur des records hier, clôture en hausse pour le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones qui ont signé des performances historiques. On a la Fed qui nous dit que globalement elle va suivre les anticipations de taux et que les baisses vont commencer cette année. Il y en a trois qui sont prévues et ça pourrait commencer pour le mois de juin. On a ce matin la Banque Nationale Suisse, qui a décidé d'abaisser son taux directeur. C'est la première des grandes banques occidentales à le faire. 25 points de base, on retombe à 1,5%. Du coup, un ferment de nouvelles positives. Bon, il y a les PMI européens qui sont pas très très bons et en France notamment qui sont moins bons que prévu, mais ça accrédite la thèse que la BCE sera plutôt clémente. Donc on fait le plein de bonnes nouvelles sur les marchés. À noter qu'Unibail Rodamco Westfield gagne 2,14% et c'est la plus forte hausse du CAC 40 à 73,54. On a ST Micro aussi, très belle performance, plus 2,13, 40,79€. Téléperformance plus 1,9 à 87,98€. Et puis de l'industrie derrière, toujours Stella Stellantis, par exemple, qui gagne 1,5% à 27,08. En revanche, c'est toujours un petit peu difficile pour Kering, qui a bien du mal à se stabiliser après sa très forte baisse d'hier et son warning sur ses ventes. Kering qui perd 1,5% à 369,60€. C'est la plus forte baisse du CAC. Edenred suit à moins 0,7, 49,02€. On a également Michelin qui perd 0,4% à 35,86€. En baisse, prise de bénéfices autour de Beneteau, qui a connu une très belle séance hier. Le titre perd 1,3% à 13,60€. Plus forte hausse du SBF 120, c'est encore Orpea après une très forte hausse hier. Le titre gagne encore 7,2% à 1 centime. Le CAC donc plus 0,18%, on est à 8175 points. L'euro 1 dollar 0,894, puis il faudra qu'on en reparle. Nouveau record absolu sur l'once d'or fin, au-delà des 2200 dollars ce matin. Là, on est à 2203 exactement, Lorraine.
Voilà, et bien alors, on en reparlera à 11h dans votre histoire financière, si ça vous dit, cher Antoine. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On continue à faire le point sur l'actualité financière, patrimoniale, boursière que vous devez maîtriser pour être bon investisseur.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Johan Lopez. Bonjour, cher Johan.
Bonjour, Lorraine.
Vous êtes aussi à temps plein fondateur et rédacteur de Snowball, où on peut aussi s'informer pour être meilleur investisseur. Ce matin, vous avez retenu deux informations. Intéressante pour ceux qui rêvent d'être propriétaires immobiliers, mais qui peut-être font face à la crise du secteur. Eh bien, une solution, acheter sa maison en ligne, et pas seulement en ligne, dans le cadre d'un live streaming. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est pas encore en France, malheureusement, mais ça va arriver peut-être. Alors on connaît tous le télé-shopping ou le télé-achat qui a connu son heure de gloire dans les années 80-90. Mais la Gen Z, les millennials sont en train de réinventer ça avec le live stream shopping, c'est-à-dire acheter des objets en live face à un influenceur qui va les présenter. Et récemment, ça marche très fort en Chine. Par exemple, récemment, il y a une influenceuse sur Douyin, donc l'équivalent de TikTok en France, qui a vendu 10 millions de produits en une semaine et qui a réalisé 14 millions de bénéfices, de chiffre d'affaires, pardon. Et ça, c'est en train de pénétrer donc le marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des agents immobiliers donc qui vont live streamer des maisons et des habitants de Chine qui vont acheter ces maisons à ces agents immobiliers. Donc par exemple dans le Yunnan, c'est ça, il y a une petite ville qui a connu une hausse de 70% de ses ventes alors que le marché chinois est moribond aujourd'hui. Oui. Alors comment ça se passe? Mais en fait l'agent immo va juste live streamer la maison, les gens posent des questions et ensuite, ils se mettent en contact sur WeChat ou autre et ils vont réaliser la transaction ensuite. Donc, c'est un moyen pour des gens qui n'habitent pas dans ces régions-là de pouvoir acheter une maison. Et c'est souvent des retraités ou des gens qui veulent acheter une maison secondaire. Donc, en France, on est en train de voir ça un peu arriver avec beaucoup d'agents immo qui vont présenter des biens sur Instagram. Alors, on n'est pas encore sur du live streaming shopping.
On est sur une tendance de digitalisation.
Exactement, c'est ça, ouais, pour justement redynamiser un peu le marché qui peine un peu en ce moment.
Bon, on espère des appartements présentés avec pas trop de filtres quand même pour réussir à donner une idée réelle du bien immobilier. Voilà, acheter sa maison en live streaming peut être une possibilité chez nous bientôt. Un mot de MicroStratégie, entreprise dont on parle régulièrement sur cette antenne, qui est notamment sous les radars parce que très riche en Bitcoin.
Oui, tout à fait. Alors oui, je voulais revenir un peu sur cette stratégie parce que c'est vrai qu'on connaissait pas du tout, en fait, MicroStrategy avant 2020. Donc oui, MicroStrategy, c'est une entreprise qui a été créée donc par Michael Saylor et d'autres cofondateurs en 1989, donc vraiment tout début d'Internet, et qui donc, au début, c'était du conseil en data, en cloud. Enfin, petit à petit, ils ont évolué. Aujourd'hui, c'est de l'IA aussi. Donc, c'est un business qui génère pas grand-chose aujourd'hui. En fait, c'est 500 millions par an. Donc, par rapport à la valorisation de 26 milliards, je crois, aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Mais voilà, donc en 2000, l'action explose. Puis, elle se crash de plus de 99%. Et en fait, pendant des décennies, l'action est vraiment moribonde. Donc, il se passe pas grand-chose. Et en 2020, Michael Saylor se dit... j'en ai marre du dollar, ça perd de la valeur, j'ai découvert le bitcoin, allez je vais investir un peu de trésor. Et donc là il se met à investir la trésorerie de l'entreprise dans du bitcoin pour justement conserver cette valeur. Et en fait ça va devenir, au-delà de l'investissement de la trésor, ça va devenir une vraie stratégie d'accumulation vraiment massive de bitcoin. Donc il va même émettre des nouvelles actions ou des obligations pour acheter des bitcoins et donc faire grossir ce capital. Aujourd'hui, il y a plus de 214 000 bitcoins, si je me trompe pas. J'ai le chiffre là qui représente, 214 246 bitcoins, pour être précis, et qui représente 1% de l'offre totale de bitcoins. C'est-à-dire qu'il va y avoir 21 millions de bitcoins, et là, ça représente du coup 1%, ce qui est gigantesque, et ça pèse aujourd'hui 14 milliards. Donc, c'est-à-dire que la moitié de la valeur de l'entreprise, aujourd'hui, à peu près, c'est bitcoin, en fait. Et donc, oui.
Bitcoin a fait un petit peu la montagne russe ces dernières semaines. Donc ça veut dire quoi pour la trésorerie de MicroStrategy? Est-ce que c'est brillant comme stratégie ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu court-termiste?
On peut dire que là c'est brillant parce que du coup ils sont vraiment en profit. Et aussi en fait MicroStrategy est devenu une façon de s'exposer au Bitcoin sans acheter du Bitcoin. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs du coup qui achetaient du MicroStrategy. Alors aujourd'hui il y a les ETF évidemment qui sont sortis, mais MicroStrategy reste une stratégie Bitcoin pour les gens qui ne veulent pas acheter directement du Bitcoin. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est du génie et c'est une stratégie qu'on, je pense, qui n'a jamais été vue en fait dans l'univers du business. Cette accumulation massive d'actifs alternatifs. Et donc, on pourra savoir dans quelques années si c'était vraiment du génie ou de la folie.
Voilà, pour vous exposer au Bitcoin, finalement, acheter du MicroStrategy. Alors, à noter que les actions de MicroStrategy ont baissé de plus de 13% mardi, en début de semaine, avec la chute du Bitcoin. Bon, et après que la société a annoncé une offre de dette convertible de plus de 600 millions de dollars. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette stratégie alternative qu'on peut noter. Merci beaucoup, Johan Lopez de Snowball. Vous restez avec nous. On va se retrouver après en équipe pour continuer à décrypter les informations patrimoniales et financières qui nous concernent en tant qu'investisseurs. Mais d'abord, on va passer une tête chez nos traders en cette journée de record du CAC 40.
Tout pour investir. Le match des traders.
Nos traders, nos gérants du jour, ce sont d'une part Michel Delobel, gérant de portefeuille sous mandat MW Gestion. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et puis Mathieu Serron, trader pour compte propre. Mathieu, on commence avec vous. Plein de bonnes nouvelles sur les marchés. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée pareille ?
Oui, pluie de records même, hein, avec des records historiques. Antoine en parlait tout à l'heure sur le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500. Ce matin, le CAC, le DAX, l'Eurostox, et bien évidemment, j'en oublie, suite notamment à la Fed hier soir, qui a eu un discours accommodant, laissant ouvrir la porte à des baisses de taux, trois précisément, courant de l'année. Mais c'est vrai que on se pose tous des questions quand même. Hein. Quel potentiel, que faire sur ces marchés-là? Donc, il faut continuer d'accompagner la hausse du mieux possible. Moi, c'est ce que je m'efforce à faire depuis des semaines, des mois. Et c'est le discours que je vous tiens chaque semaine. Il faut continuer à acheter sur repli. Alors, c'est vrai que des replis, il n'y en a pas tellement. Et pour ceux qui ont un petit peu de mal à se convaincre à l'idée d'acheter, ce que je peux parfaitement comprendre, hein, parce que les arguments qu'on peut avancer, c'est d'une part, l'effet FOMO, donc la peur de ne pas participer à la fête, entre guillemets, et d'autre part, donc, la Fed. Et justement, pour ceux qui ont du mal à se laisser convaincre par ces discours-là, ce que je peux comprendre, il faut pas se conditionner négativement. Vous voyez, très souvent, on cherche vraiment à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi les marchés montent. Il me faut des raisons, on va dire, logiques, fondamentales à ça. C'est pas quand on intervient sur les marchés, moi trader comme je suis, je cherche pas forcément à justifier, à expliquer tout. Ce que je fais, c'est que j'analyse une situation, j'élabore différents scénarios et je vais jouer le scénario qui me paraît le plus probable. Et là, actuellement, dans l'état actuel des choses, le scénario le plus probable, c'est une poursuite de la hausse. Et ce qu'il faut faire, c'est identifier des niveaux de rupture en se disant, allez, à partir de quelle rupture de niveau la situation se dégrade un petit peu. Moi, je vous propose de surveiller la zone des 7850, 7900. C'est pas à côté, c'est sûr. Hein. On est à 8200, là. Donc, il y a un petit peu de marge. Mais avant, il est difficile d'identifier des niveaux de remise en question assez proches. Là, on est actuellement sur un petit niveau pour du très court terme, sur un petit niveau d'achat. La zone support proche se situe sur 8200, 8180. Donc, nous y sommes actuellement. Donc, éventuellement, pour un achat et viser 30, 40 points de rebond. Sinon, en dessous, c'est 8145, le niveau support. Mais voilà comment il faut aborder ces phases-là. Et comme je le répète depuis pas mal de temps aussi, couvrez-vous avec les options. Oui, on est sur des niveaux historiques. Oui, les probabilités de poursuivre à la hausse sont supérieures. Mais à un moment donné, les marchés finiront bien par retracer. Et justement, pour amortir le choc lors du prochain retracement, achetez des options, profitez d'une volatilité implicite assez basse pour vous couvrir. Voilà, vous ne le regretterez pas dans les semaines, mois à venir.
Voilà les conseils de Mathieu. Et vous, Michel, de votre côté, vous aussi, vous n'essayez pas de comprendre le pourquoi, du comment ?
Moi, en tant que gérant de portefeuille, si, j'essaye un petit peu de comprendre parce que j'ai une vision un peu moins court-termiste que ce dont parle Mathieu, même si on essaye tous de faire aussi au mieux à court terme. Ce qui est compliqué dans la hausse du marché actuellement, c'est qu'on a l'impression que c'est un petit peu toujours les mêmes raisons qui sont mises en avant. Mais en même temps, on a fait monter le marché fin d'année dernière parce qu'on anticipait 6 ou 7 baisses de taux sur cette année. On n'en est plus qu'à 3, mais on a l'impression que ça gêne personne et que ça continue de monter. Voilà. Ce qu'a dit la Fed hier, ils n'ont pas dit grand-chose d'autre que ce qui était attendu avant la réunion, c'est-à-dire en gros 3 baisses de taux. Alors, est-ce que la première arrivera en juin, en juillet? On ne sait pas trop, mais je ne sais pas ce qui aurait pu faire baisser le marché, en fait, suite à la réunion de la Fed hier. Donc voilà, bon, comme dit Mathieu, il ne faut pas vouloir aller contre le marché et se positionner dans le mauvais sens. Il faut regarder des histoires de probabilité à très court terme. La tendance est haussière et on l'a vu hein, depuis il y a une petite consolidation début d'année et puis à partir de mi-janvier, c'est reparti à la hausse. On monte d'un seul coup, on évolue horizontalement pendant quelques jours, une semaine, 10 jours, ça repart un coup à la hausse. On est reparti à l'horizontale, pareil, mi-février jusqu'à début mars, et puis là, on est reparti de l'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur une nouvelle phase d'accélération haussière? Si on regarde l'Eurostock 50, c'est un petit peu l'impression que ça donne. Le CAC 40, lui, est un petit peu plus faible, mais c'était déjà le cas hier parce que les résultats de Kering ont pesé sur le secteur du luxe en général. Aujourd'hui, Kering est à nouveau un petit peu en baisse, de même avec Essilor et Hermès. Donc, ça a tendance à peser sur l'indice. Le CAC 40 est quasiment revenu à l'équilibre là après une ouverture plus haute. L'Eurostock 50 se tient mieux. Donc, c'est aussi délicat d'avoir une vision que concentrée sur notre CAC 40 national. Il faut aussi des fois regarder un petit peu plus large parce que voilà, la composition de chaque indice peut influencer dans un sens ou dans l'autre l'impression que l'on a du marché.
Merci beaucoup à tous les deux. La vision du trader, la vision du gérant. Merci à tous les deux, Michel et Mathieu. D'ailleurs, pour sortir de notre CAC 40, on sera avec Wilfried Galland de chez Montpensier Finance dans un gros quart d'heure où justement, on essaiera de regarder hein, la réserve à rassurer. Oui, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui a été dit? Et puis surtout, c'est quoi les histoires qu'on va se raconter, qu'on va écouter, nous, investisseurs particuliers hein, celle de la baisse des taux, évidemment. On va continuer à écouter celle de l'IA, hein, qui nous intéresse tous. Et puis, on regardera aussi un peu ce qui se passe du côté de la Chine, parce que vous verrez, nous, en tant qu'investisseurs européens, ça nous concerne. Ce sera dans un gros quart d'heure. D'ici là, mon équipe du jeudi est réunie pour décrypter l'actualité qui vous concerne.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Bordeaux est représenté, vous savez, c'est jeudi. Mathieu Cerron était avec nous. Nous accueillons Alexandre Leng. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
Co-fondateur de Tidigo, notre gestionnaire, visionnaire, fortuné, Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine. Bonjour Lorraine. D'Alter Egal et puis Johan Lopez est resté. Il n'est pas parti s'acheter un appartement sur du live streaming. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par réfléchir à cette question. Fort de ce que nous venons d'entendre, est-ce que c'est le bon moment pour entrer sur le marché action ? Géraldine, expliquez-nous.
Et il n'y a pas de mauvais moment pour rentrer sur les marchés actions, Lorraine. Mais effectivement, on peut quand même s'inquiéter parce qu'on se dit bah ça bat record sur record. Vous avez parlé de la fête tout à l'heure, j'ai compris. Mais néanmoins, il y a 4 mois, tous les marchés s'attendaient à ce qu'on ait 7 baisses de taux. Mmh. Il y en aura max 3. Les mecs ne mouftent pas. Tout se passe bien. C'est quand même assez étonnant. Et donc, il y a plusieurs moyens de regarder les choses. D'abord, il y a les résultats d'entreprise qui restent extrêmement bons pour l'essentiel. Donc il y a encore beaucoup de flux acheteurs. Si on anticipe des baisses de taux, de toute façon, ça veut dire que les taux long terme qui ont déjà commencé à baisser rapportent moins. Que très bientôt, le money market rapportera pas grand-chose. Donc finalement, on retrouve des vertus à l'investissement long terme, action. Peut-être qu'on aura des fenêtres assez intéressantes sur l'obligataire parce que ceux qui ont acheté précédemment avec des taux un peu meilleurs et avec une maturité courte, donc avec un taux de défaut qui sera forcément un peu plus faible, en tout cas on imagine, puisqu'on aura une maturité 2026 par exemple, ça reste extrêmement, extrêmement intéressant. L'inquiétude qu'on peut avoir sincèrement, c'est que sur les OPC, Comment ?
Inquiétez-nous un peu.
Voilà, et bien, c'est qu'en fait ils ont tous à peu près la même chose. Et on a fait une petite revue de portefeuille auprès des investissements qu'on avait pour nos clients, et on a regardé les lignes, et même sans regarder l'inventaire complet, si on regarde les 10 premières lignes, il y a énormément de points communs sur ces OPC, ce qui veut dire que globalement, s'ils se mettaient un peu tous à vendre en même temps telle ou telle action, ça pourrait être compliqué. S'il y a un retournement sur un analyste, ça pourrait être compliqué. Et principalement sur ce début d'année, ce qu'on retrouve beaucoup dans les fonds actions internationales, ça va être la tech, ça c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est compliqué d'être à côté de la tech. Et la santé. Donc c'est juste ce genre de pont où il faut faire relativement attention. Maintenant, c'est des fonds qui sont agiles, les fonds actions internationales. Donc, ce sont des fonds qui sont agiles, des fonds actions internationales, et c'est des fonds qui, justement, peuvent demain enlever la santé pour mettre plus de financières et ainsi de suite, ce que vous ne pouvez pas faire dans vos portefeuilles au quotidien, ce qui, ça demande beaucoup d'agilité.
Ouais.
Johan.
Ouais, ce que je voulais dire, rebondir sur ce que tu disais au début, qu'il n'y a pas de bon moment, et en effet, je suis d'accord, le premier meilleur moment, c'était hier, et le deuxième, c'est aujourd'hui, et en fait, il ne faut pas se bloquer. En fait, si on a une stratégie long terme, ce que je dis à tout le monde, moi, même si tu commences aujourd'hui, en fait, tu vas mettre tous les mois, donc le fameux DCA, Dollar Cost Averaging, en fait, tu investis tous les mois la même somme. En fait, peu importe si c'est élevé aujourd'hui, peut-être demain ce sera plus bas, et du coup, ça va s'équilibrer, enfin, ça va se lisser. Donc pour moi, oui, c'est le bon moment aujourd'hui, en fait, hein, au-delà de tout l'aspect macroéconomique, etc.
Si t'as l'horizon de temps.
Oui, voilà.
Effectivement, si t'as deux ans, de toute façon, c'est jamais le bon moment. Si t'as Ou alors t'as un coup de bol incroyable. Mais c'est voilà. Donc oui, les niveaux des indices sont assez élevés. Modulo la Chine, qui elle en revanche reste un bon timing d'investissement. Depuis le temps que je dis, les garçons, franchement, et Lorraine, il y a un moment où je vais avoir raison.
On attend
sûr.
Clément,
un moment où j'aurai raison, c'est sûr. Mais en tout cas, ça reste intéressant d'investir par rapport aux autres classes d'actifs qu'on a à côté de nous. Ça reste intéressant d'investir sur les actions avec une durée un peu longue et en faisant un tout petit peu attention à ce qu'on achète.
Voilà, investir sur le marché actions comme si on avait tous 15 ans devant nous. C'est la réflexion. Un petit mot, je vous ai demandé de préparer pour aujourd'hui une réponse à cette question. Où mettre 10 000 euros si vous avez 10 000 euros en cash, en liquidité là? Géraldine, à vous en premier.
Je pensais à mon compte bancaire, mais c'est pas bien.
J'entendais où vous placez et comment vous placez 10 000 euros.
alors pareil, hein, combien de temps, quel niveau de risque, mais imaginons qu'on soit sur quelque chose de relativement quand même optimiste. Moi, perso, je mettrais 5 000 euros sur Carmignac Investissement et sur JP Morgan Global Healthcare. Donc un fonds action santé pure, moitié biotech, moitié santé classique. Et Carmignac Investissement, parce que ok, c'est un vieux de la vieille. Il y a un nouveau gérant, ceci étant, qui vient d'arriver, qui vient de la tech, qui est suédois, je crois, de près moi. En tout cas, un truc du Nord. 3 000 euros sur les bonnes SCPI, donc plutôt les petites, plutôt les récentes, donc plutôt pas Amundi, pas Primonial, pas la française, donc plutôt... Bah non, mais autant les virer. Plutôt par la gestion, plutôt peut-être Atland, peut-être les jeunes... type Vendôme Région, etc. Parce que ça paraît être un bon timing. Alors, on peut différer 3 mois, mais ça reste quand même une bonne idée de l'acheter maintenant qu'on a un peu apuré les bêtises. Et puis, moi, j'aime bien les banques européennes et le fait qu'on baisse pas trop les taux, pas si vite, etc., etc. Je pense que ça nous laisse un peu de marge. Donc, j'aurais bien mis un Axiom European Banks Equity. J'ai 15 ans devant moi, je suis contente.
Voilà. Johan, est-ce que vous mettez tout sur MicroStrategy pour être positionné sur le Bitcoin?
Non, tout sur du Dogecoin, je pense. On est pas mal. Moi, je mettrais... c'est toujours dur à dire, mais disons, allez, on part sur 20 ans devant nous. Moi, je suis assez boring. Je mettrais une bonne majorité sur un bon vieil ETF, États-Unis, donc peut-être 70% sur les US, S&P 500, ou peut-être moitié S&P et moitié tech pour s'exposer un peu plus à la tech. Et je mettrais un petit 10% Bitcoin, ETF... plutôt ETF Bitcoin, ça peut être pas mal, mais sauf que c'est pas accessible aujourd'hui en France, donc.
Géraldine m'a raconté un gros montage pour pouvoir y accéder il y a pas longtemps.
Intéressant.
J'ai raconté ça moi
en off.
Ah, très bien.
Est-ce qu'on peut en parler en live? Je suis assez curieux de ça. Donc on en est à 80 et oui, 20%. J'aime bien aussi les banques européennes, donc le reste sur ça. Ouais.
Géraldine nous parlait d'Axiom European Banks Equity. Alexandre, vous mettez tout chez Tudigo, mais vous n'avez pas le droit, donc.
Chez Tudigo, c'est juste un canal, mais je vous fais une répartition de mon côté. Moi, je mets 50% sur de l'obligataire avec un ou du club deal immobilier horizon 24-36 mois en mon côté, donc en private equity. Pour le côté court terme et un côté beaucoup plus conservateur, la partie conservatrice, je pense que j'en mets 25% sur une PME déjà rentable qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a de la renta et avec en visant une sortie en action, mais à 3 ans. Par LBO, par achat de dette ou nouveau tour. Et j'en mets 25 sur une deep tech ou une med tech en profitant du dispositif fiscal jeune entreprise innovante avec 50% de réduction d'impôts. Comme ça, j'ai dérisqué 50% sur mon dernier quart. Et j'ai une partie dynamique. Voilà.
Voilà. Question intéressante que je poserai de temps en temps à mes invités, si ça vous dit, chers auditeurs, auditrices. Un petit mot pour conclure du climat, ou plutôt de la technologie autour du climat. Alexandre, cette actualité retient votre attention. La collecte de fonds est très généreuse vis-à-vis de la Climate Tech.
Alors, la collecte de fonds, elle a été déjà très généreuse en 2021, hein, mais de manière générale sur tous les fonds. Et effectivement, sur les fonds qui avaient une thèse d'investissement
green. Pourquoi le dire en franglais d'ailleurs ? Parlons des entreprises qui sont dans le climat et la technologie, bref, qui attirent les fonds.
Voilà, donc les entreprises en revanche qui attirent les fonds, en 2023, si on prend la French Tech, hein, historiquement c'était tout ce qui était logiciel, SaaS, tout le digital, on a la Green Tech qui est passée devant. Donc les Green Tech, qu'est-ce qu'on met dedans? On a par exemple des Vercors dans les batteries électriques, 850 millions d'euros levés l'année dernière, Insect dans les protéines d'insectes, Accenta dans la décarbonation des bâtiments, des très très grosses levées. Ce qui est intéressant de voir, de constater là-dedans, c'est que au-delà des nombres d'opérations et des montants, on a un accent des investisseurs sur le hardware. Mmh. Donc sur des projets, on n'est pas sûr sur la green tech qui avec le digital permet d'émettre des rapports qui permettent d'analyser les émissions. On se parle de batteries, on se parle de faire des usines, on se parle de faire des panneaux photovoltaïques, des solutions très concrètes aux défis de demain. Autre point intéressant à constater, c'est pas les fonds qui investissent dedans. Enfin, les fonds ils mettent, hein, mais c'est beaucoup des corpos. On a Total qui investit beaucoup dedans. On a les géants de la pétrochimie qui investissent dans ces technologies-là. Peut-être parce qu'ils sont capables d'appréhender les enjeux industriels, hein, qui sont quand même plus complexes que les enjeux qu'on peut avoir sur le développement d'applications digitales. Mmh. Et puis parce que les montants sont très importants et qu'il y a derrière aussi un sujet de synergie. Notamment commercial. Voilà, moi ce que j'en retiens.
Et oui, et pas du tout de greenwashing.
C'est très très bien pour leur marketing, effectivement.
Voilà. Ouais. Géraldine, le mot de la fin sur ces technologies climat et green qui font plein financier.
Et on a hâte que ça fasse le plein quand ce sera coté en bourse aussi, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Nous on trouve ça très bien. Enfin, de toute façon, la transition énergétique c'est un thème de souveraineté pour l'Europe, c'est un thème de souveraineté pour la France. La Chine l'a compris bien avant nous. Ils sont pas très green dans l'absolu. Donc moi je trouve ça parfait. Je m'interroge juste sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de subventions. Ouais. Et dans un monde où on est extrêmement endetté, alors le mur de tête pour l'Europe il y arrive plus tard, mais pour les États-Unis c'est 2026. Il y a un moment où il ne faudrait pas que ça s'arrête trop brutalement, et on a connu ça, souvenez-vous, peut-être que vous n'avez pas vous souvenir, vous n'étiez pas tous nés, mais il y a 20 ans avec les éoliennes et tout ça, et c'était déjà compliqué, et on a eu un peu une crise à un moment parce qu'il n'y avait plus les financements qui arrivaient. Mmh. Donc je dis juste que la dette des pays ne vous peut-être pas permet de tout le temps financer cela, mais c'est une très bonne chose que Total s'y intéresse, j'aime beaucoup Total.
Voilà, un petit peu de nuance. D'ailleurs, à 11h30, on dédiera notre question-réponse au sujet de la finance durable. On se demandera comment en faire quelque chose de cette finance durable et comment résoudre ce paradoxe où on a tous envie d'avoir de la finance durable, d'en faire, mais on ne passe pas tous à l'action. On sera avec Éric Blin pour en discuter du fonds Chloé in the Sky. D'ici là, je vous dis un grand merci à tous les trois. Merci Géraldine Métifeu d'Alter Egal. Merci Yoann Lopez pour cette revue de presse. Et merci Alexandre Leng de Tudigo qu'on retrouve dans 20 minutes. Alexandre, vous êtes notre coach. On va parler de l'explosion de la bulle du private equity.
On va parler de, on va faire un bilan de l'année 2023.
Je dramatise un peu pour le suspense.
On va parler de l'explosion de la bulle du private equity et qu'est-ce qui change en 2024. Pourquoi il faut radicalement changer sa stratégie d'investissement pour 2024-2025.
Voilà, on vous prend par la main. Alexandre a digéré un rapport de 150 pages de Bain & Company cette nuit et il va vous révéler tous ses secrets d'investissement pour être meilleur et bien investisseur, évidemment. Vous restez avec nous, petite pub, et après Nicolas Dose va nous expliquer que c'est bien les records de lutte contre la fraude fiscale, mais il faut bien regarder de plus près ces records pour être sûr que ce en sont vraiment. A tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas qui va être très très critique.
Pourquoi ? Tout de suite, les grands mots.
Le record de la lutte contre la fraude fiscale. Vous allez être critique par rapport à ce mot record. Gabriel Attal se félicite du montant 2023 de 15,2 milliards d'euros qui a donc été collecté. Mais vous nous dites que l'enthousiasme de notre premier ministre mérite un petit peu de temporisation, bémol.
Le bémol, vous avez tout dit. Parce que la façon dont c'est présenté par l'exécutif, on a l'impression qu'on a fait rentrer 15 milliards dans les caisses de l'État. Non. On a identifié, détecté, mis en recouvrement 15 milliards d'euros. Mais après, la somme qui vraiment entre dans les caisses de l'État, elle n'est pas négligeable pour la fraude fiscale. Là, on parle de la fraude fiscale. Mmh. Elle est de 10 milliards 6. Alors, c'est un montant généreux. Seulement, c'est un montant qui était le même en 2022, à peu près le même en 2021. Donc, on fait des progrès en termes de détection des fraudes. On ne progresse pas tellement en termes de montants qu'on fait vraiment rentrer dans les caisses de l'État. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelques bémols. Quand on affiche ça comme quelque chose d'absolument révolutionnaire, en fait, les montants qu'on arrive vraiment à collecter, comme vous dites, eh bien, ils ont tendance un peu à plafonner. On est un peu au taquet.
Voilà, on détecte mieux, oui, mais de la coupe aux lèvres, il y a loin. Vous nous parlez de fraude fiscale, certes, c'est intéressant, mais quid de la fraude sociale ?
Alors la fraude sociale, traditionnellement, les montants détectés et mis en recouvrement sont toujours nettement inférieurs à la fraude fiscale. Donc là, on est à 2 milliards d'euros pour 2023. Mmh. c'est un peu dans la ligne de ce qu'on fait habituellement. Mais encore une fois, sur l'histoire de je détecte, je mets en recouvrement, et qu'est-ce que je fais rentrer dans les caisses? Il y a eu un chiffre impressionnant des URSSAF qui ont détecté 1,2 milliard d'euros dans la lutte contre le travail au noir. 1 milliard d'euros détectés, ils ont fait rentrer 80 millions d'euros. Okay. Il y a quand même un écart énorme entre ce que l'on peut espérer mais ce que l'on peut réellement réaliser. Et on voit que les montants progressent, mais ce n'est pas spectaculaire. C'est pour ça que le mot record, à mon avis, est un peu trompeur. Il y a eu un bond en avant incroyable dans la lutte contre la fraude fiscale, principalement. Ça a été 2014, Barack Obama fait la loi FATCA au Congrès. La loi FATCA, elle tue le secret bancaire. Et à partir de ce moment-là, on a eu effectivement un emballement un peu de la lutte avec la fameuse cellule de dégrisement, souvenez-vous, qui était pilotée par Michel Sapin. Depuis, on progresse, c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment d'étincelle. Et je dis ça parce que c'est l'argument valise des différents partis politiques lors des campagnes électorales, quand ils arrivent avec des programmes géniaux où on rase gratis partout. Généralement, il y a toujours un moment où le type qui fait l'écho comme moi, qui va se retrouver devant un candidat, lui dit « Mais comment vous financez ?» Et la réponse super classique, c'est « Ah bah j'irai chercher l'argent de la fraude !» Oui, mais l'argent de la fraude, parce qu'elle est véhiculée avec plein de fantasmes, comme si on pouvait imaginer faire rentrer 60, 70, 80 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Bullshit, si vous prenez fraude sociale, fraude fiscale, allez, je vous fais la totalité à 12 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Oui, on va faire des progrès, l'IA, la réforme dont on va parler dans un instant, les nouvelles techno, allez, on va monter à 15, même si on est un jour à 16, très bien. Mais voilà, l'idée de la poule aux œufs d'or derrière la lutte contre la fraude fiscale, c'est un fantasme absolu. Il n'y a pas une sorte de magot merveilleux qui permettrait d'arriver avec des programmes complètement lunaires et d'expliquer que de toute façon, c'est la lutte contre la fraude qui va permettre de tout payer. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi je mets des bémols à ce qui nous est présenté.
Bullshit, ça vous fait même parler en anglais. C'est sujet vous émeut.
Oui, bon, c'est ça.
Il y a fraude fiscale, fraude sociale, plus largement le plan de lutte contre les fraudes a été présenté il y a une grosse année déjà.
Non, enfin mai 2023. Ouais.
Bientôt un an.
Bientôt.
Est-ce qu'il porte ses fruits, ce plan?
Alors il y a des éléments, oui, les contrôles ont augmenté, il y a eu 280 recrutements d'agents du fisc en 2023, donc effectivement on contrôle davantage, les perquisitions fiscales ont augmenté de 30%, on a constaté aussi que la mise en place du délit de promotion de la fraude, c'est je suis un expert et je viens vous conseiller, Lorraine, pour contourner le fisc. Je gruge pas. Je vous conseille pour savoir comment le faire. On a créé ce délit, donc c'est quand même aussi quelque chose qui est une menace supplémentaire. Elle n'est pas totalement achevée. On aura en juillet la naissance d'une nouvelle unité de renseignement fiscal qui s'appelle l'ONAF, Office National Antifraude aux Finances Publiques. Et puis on va aussi mettre en place, et ça, ça n'est pas encore fait, le croisement avec les fichiers des compagnies aériennes. Pour savoir, Lorraine, si vous vivez sur le sol français pendant 100 jours dans l'année ou 300 jours dans l'année. Voilà. Et donc ça va voir le jour, donc ça va sûrement améliorer les choses. Les nouvelles technologies aussi permettent de faire des progrès substantiels. Bon, par exemple, on a identifié 140 000 piscines cachées.
Grâce à Google Maps.
Grâce aux images satellites et à l'automatisation des processus de recherche. Il y a 40 millions d'euros comme ça qui sont passés au nez de la taxe foncière. Alors on s'est amusé d'ailleurs avec Emmanuel Lechypre. On a regardé cette nuit, on a vu que dans le même temps, les ventes de bâches camouflées avaient progressé. Les gens s'achètent des bâches pour éviter de se faire remarquer. Bon, et alors, il y a quelque chose aussi qui va probablement prendre de l'ampleur, qui en est cassé de balbutiement. C'est ce qu'on appelle le web scrapping. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder votre comportement à partir de votre de ce que disent les réseaux sociaux de qui vous êtes. Si vous êtes au RSA et que vous faites le tour du monde en jet privé, il y aura un petit problème, voilà. Mais là encore, la véritable avancée, ça a été, parce que le vrai élément nouveau qui a permis de monter une marche, mais il y a un moment, vous ne montez pas 25 marches, toujours les mêmes, quand on va pas identifier 140 000 piscines tous les ans, par exemple. C'est la loi FATCA, parce que la loi FATCA, elle a instauré et rendu quasi automatique l'échange d'informations et l'échange de données entre les administrations fiscales des différents États. Ça a été ça, vraiment, l'élément qui a considérablement accéléré les choses. Comme quoi, c'est les Américains qui décident.
Voilà, même sur les sujets de fraude fiscale. Donc la fraude fiscale, oui, ça marche, ça s'améliore, mais attention aux fantasmes, vous nous dites, cher Nicolas.
Voilà.
Merci beaucoup, Nicolas Dose, tous les jours et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast et en replay sur notre plateforme, mais aussi sur YouTube, où vous pouvez retrouver cette chronique de Nicolas et même commenter, réagir. C'est le moment de vous éclairer, de vous aider à être meilleur investisseur, de digérer ce qui se passe ici et au-delà, notamment aux États-Unis, avec l'équipe de Montpensier Finance.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Wilfried Galland, directeur stratégie chez Montpensier Finance, est avec nous. Bonjour, cher Wilfried.
Bonjour, chère Lorraine.
On va se raconter des histoires avec vous.
Oui.
On va en décrypter quelques-unes. Évidemment, comment ne pas vous avoir un lendemain de jour de Fed ?
Ah, forcément, forcément.
La Fed qui a rassuré, qui nous a rassuré, qui vous a rassuré ?
Oui, ce qui était intéressant hier, c'était au-delà de la décision de stabilité qui était attendue. Hein, on attendait effectivement l'histoire qu'allait nous raconter Jérôme Powell sur à la fois la résistance de l'économie américaine et éventuellement est-ce qu'il avait des doutes sur la poursuite de la baisse de l'inflation. Est-ce que cette fameuse histoire, puisque les marchés financiers et globalement l'économie fonctionnent beaucoup à partir d'histoire, est-ce que cette fameuse histoire d'une inflation qui baisse tendanciellement et qui va permettre une baisse de la pression financière, donc une baisse des taux d'intérêt, est-ce qu'elle tient toujours ? Et il nous a dit, et je cite véritablement Jérôme Powell dans sa conférence de presse, l'histoire est toujours la même, nous avons une inflation qui baisse graduellement jusqu'à 2%, même s'il y a des à-coups en chemin. Je fais une traduction littérale de ses propos. Mais c'est exactement la phrase qu'il a prononcée. L'histoire reste la même. Il a employé ces termes-là. Et donc, ça rassure à la fois les marchés et globalement l'économie, en disant on est bien d'abord à un sommet de pression financière en termes de taux, donc on ne peut maintenant plus que descendre, et effectivement ça s'approche, on va vers un environnement financier plus favorable, ça à la fois pour les marchés et globalement pour l'économie, c'était une bonne nouvelle et c'est pour ça que Jérôme Powell a rassuré.
Statu quo sur les taux, la Fed là où le marché l'attendait, ce que vous nous dites, et quelques histoires en palimpseste, si je puis dire, qu'on retiendra de ce discours, mais aussi plus largement de ce que vous observez au quotidien, Wilfried.
Absolument.
D'abord, bon, celle de la baisse des taux, vous nous avez dit, ça on peut compter dessus.
Exactement. En fait, globalement, on a, je trouve dans les marchés, vous savez, les cours, on dit toujours les cours d'aujourd'hui, ce sont les données d'aujourd'hui et les histoires de demain. C'est comme ça que se construisent.
Vous avez
en fait,
déjà entendu dire cette phrase.
Voilà, exactement. J'ai l'avantage de la cohérence ou l'inconvénient de la redondance et de la répétition. Voilà. Et en fait, les trois histoires que se racontent les marchés, il y a effectivement la première histoire, c'est effectivement celle de la baisse des taux et donc de la baisse de la pression financière, ce qui va permettre d'avoir une économie, on va dire, plus qui va se financer plus facilement, et ça globalement c'est très intéressant. La deuxième histoire que se raconte globalement l'économie et les marchés, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle qui va révolutionner la productivité, et donc pourquoi c'est important, parce que ça veut dire que la croissance potentielle de l'économie remonte. Alors il faut qu'on ait effectivement des données à la hauteur globalement de ces histoires. On commence à en avoir un petit peu aux États-Unis, en particulier quand on regarde les derniers résultats et les dernières communications des grandes sociétés de la technologie, pas nécessairement des GAFA, mais quand vous regardez les Cisco, Accenture, IBM, en fait, il y a toujours un petit flux de suppression d'emplois qui ne peut plus s'expliquer décemment aujourd'hui par le retour à la moyenne post-Covid, mais qui ne peut s'expliquer que parce qu'il y a des pans entiers de l'économie qui, globalement, profitent du fait qu'avec l'intelligence artificielle, la croissance a beaucoup moins de coûts initiaux. C'est-à-dire qu'au début, quand vous étiez en croissance, ce sont des sociétés qui sont en croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité, donc ils ne coupent pas les coûts pour rattraper quelque chose. En fait, pour développer de nouveaux marchés, l'intelligence artificielle leur permet d'éviter d'avoir des coûts initiaux. Donc ça, c'est quelque chose que les économistes suivent attentivement, parce que ça peut vouloir dire qu'effectivement, la longue atonie de la productivité qui inquiétait quand même beaucoup les économistes en Europe et aux États-Unis. En Europe, c'est toujours le cas, mais aux États-Unis, depuis deux trimestres, on voit qu'effectivement la productivité remonte fortement. Ça pourrait nous générer des choses quand même très très positives sur le futur et la croissance potentielle. Pourquoi c'est important aussi ? C'est parce que quand vous avez une croissance potentielle qui remonte, vous n'avez plus besoin d'avoir un soutien budgétaire et monétaire aussi important. Et on sait que les soutiens fiscaux, on en parlait à l'instant, et le soutien monétaire, c'est un peu plus passé de mode. Ça, effectivement, c'est la deuxième histoire que se racontent aujourd'hui les marchés. Et puis il y a l'histoire orientale, extrême orientale,
de la Chine.
Exactement.
Qui nous concerne nous en tant qu'Européens. Expliquez-nous pourquoi.
En fait, la Chine, c'est un peu l'homme malade de l'économie depuis déjà un certain temps. Et donc dans les scénarios de marché, dans les scénarios économiques, rien n'était prévu de retour à meilleure fortune de l'économie chinoise. On disait de toute façon 2024, ça va être une année perdue pour la Chine. Et donc l'économie, comme les marchés d'ailleurs, fonctionne en fonction de ce qui est déjà intégré ou ce qui n'est pas intégré. Et là, la bonne surprise, c'est que depuis le début de l'année, c'est pas flamboyant, mais sur la partie investissement, sur la partie infrastructure, sur la partie très traditionnelle de l'économie chinoise, on a un retour à meilleure fortune, on a des statistiques un peu meilleures. Donc ça veut dire aussi que typiquement pour des valeurs qui sont très exposées sur ces marchés-là, soit des valeurs industrielles, des valeurs de luxe, mais pas seulement. Hein. Globalement, en Europe, c'est quand même bien plus positif que ce qu'on pensait. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tout est résolu. On voit ce matin, il y a eu une déclaration de Xi Jinping disant « je veux contribuer à une croissance de haute qualité » et quand on suit un peu l'économie chinoise, souvent la haute qualité, ça veut dire la basse quantité. C'est-à-dire qu'on compense le fait qu'on croit moins vite, mais en disant, regardez, c'est formidable, on a plus de semi-conducteurs et beaucoup plus de souveraineté. Donc tout va bien, on peut être fiers de nous. Donc tout n'est pas résolu, mais ça va un peu mieux que ce qu'on pensait. Et là aussi, ça nous donne un environnement qui est quand même beaucoup plus favorable par rapport au scénario qui était franchement négatif sur cette partie du monde, au moins au début de l'année.
Ouais, un peu plus de souveraineté, vous nous dites, du côté de la Chine, peut-être aussi, voilà, une Chine qui va plus s'occuper d'elle que de s'occuper des exports.
Exactement, exactement. Mais ce qu'on voit aussi quand même, c'est que l'industrie chinoise est très branchée sur son environnement immédiat et sur l'Asie, qui sert un peu de relais par rapport en particulier aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis voient les importations venues des pays du Sud-Est asiatique monter de façon très forte et compenser en fait la baisse des importations venant de, en tout cas de la croissance des importations venant de Chine. Ça veut dire qu'en fait ce sont des importations qui passent par les pays de Sud asiatique qui rajoutent un petit quelque chose avant de partir vers les États-Unis. C'est un peu les nouveaux circuits de l'économie mondiale.
Wilfried, pour conclure, évidemment, je suis obligée de vous poser une question sur l'histoire qu'on va se raconter avec les élections américaines.
Justement, absolument.
Comment on conclut ? Qu'est-ce que ça apporte comme perspective ou comme absence de perspective, ces élections qui sont très très loin dans le temps politique ? Oui. Et dans le temps économique ?
Pour l'instant, elles sont loin. C'est-à-dire, pour l'instant, personne, effectivement, ne fait véritablement de scénario là-dessus. On commence à regarder les programmes des différents candidats et, en particulier, l'impact que pourrait avoir une politique extrêmement protectionniste de Donald Trump. Vous savez qu'il veut à la fois augmenter de 10% les taxes à l'importation sur tous les produits qui passent aux États-Unis, voire de 60% sur un certain nombre de pays, dont la Chine, et potentiellement sur un certain nombre de secteurs, de 100%. Évidemment, ce serait extrêmement dommageable pour la consommation, pour l'inflation, pour l'économie en général. Donc ça, effectivement, ce serait un Trump 2 qui n'aurait rien à voir avec le Trump 1 qui avait été salué par l'économie. Vraiment quelqu'un qui effectivement remonte énormément les barrières, met des frictions un peu partout, recrée encore plus de tensions que ce qu'il y en avait. Même dans son premier mandat, ce sont des éléments qui n'avaient pas du tout été appréciés par les milieux économiques. Donc ça, il va falloir suivre. Et puis effectivement, c'est un personnage qui est parfois un peu illisible. Et l'illisibilité, c'est pas nécessairement ce qu'apprécient les acteurs économiques et les acteurs de marché. Donc on va attendre un petit peu tout ça, d'avoir un peu de clarification. On a un peu de temps jusqu'en novembre. Ce sera le 5 novembre, une date importante à noter dans tous les agendas.
Voilà, d'ici là, on continue à se raconter des histoires d'IA, entre autres, sur les marchés. Merci beaucoup, Wilfried Galland, de l'équipe Montpensier Finance, directeur stratégiste, d'avoir été avec nous pour décrypter ce qu'on pouvait décrypter à l'heure actuelle et pour aussi se raconter des histoires et raconter l'histoire économique. Vous restez avec nous, on va vous coacher dans quelques secondes. On va réfléchir à ce qui se passe du côté du private equity. Est-ce qu'on peut parler d'une explosion de bulles ? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour être un bon investisseur en private equity ? Réponse dans quelques secondes avec l'équipe de Tudigo. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Le coach du jeudi, c'est Alexandre Leng de Tudigo. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
Rebonjour. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous étiez déjà dans la séquence Actu avec nous. Nous allons parler de private equity. Oui, on va parler de bilan. On va essayer de regarder ce qui s'est passé au cours des 18 mois avec vous. Vous avez digéré un dense rapport de plusieurs pages, centaines de pages, dizaines de pages plutôt, de chez Bain.
Milliers de pages.
Chez Bain, pour comprendre voilà, ce qui se passe, ce qui a impacté le private equity et comment ça nous concerne, nous, vous, en tant qu'investisseur particulier, Alexandre.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 hein, qu'est-ce qui a commencé à se passer même en 2022 et qui s'est passé en 2023 et qui a impacté le private equity le premier, c'est important, on en parle beaucoup, c'est la hausse des taux. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le private equity ? Cette hausse des taux, c'est un peu une triple peine. Peine numéro 1 pour le private equity, cette hausse des taux, c'est moins de financement pour les entreprises, donc moins de croissance. Mmh. Moins de croissance veut dire des objectifs potentiellement de valeur des entreprises non atteints et donc des investisseurs qui attendent que la performance arrive ou des performances aussi qui ne sont pas là, voire même des entreprises qui derrière font faillite, hein, à l'instar d'un Luco qui justement du fait de la hausse des taux d'intérêt et de l'incapacité à trouver les financements dont ils avaient besoin, finalement, n'a pas pu faire face à ces échéances.
Voilà, pas de sortie.
Deuxième point, effectivement, c'est pas de sortie. Pourquoi pas de sortie avec cette hausse des taux ? Parce que, vous avez, avec la hausse des taux, des exigences de rendement des investisseurs qui sont plus importantes. Comment on calcule un rendement attendu en private equity, en venture, qui est une classe d'actifs plus risquée que un fonds euro, un livret A, je pousse à l'extrême évidemment, on va le calculer justement par rapport à ça. On prend le taux sans risque et on se dit, si j'investis dans quelque chose de plus risqué, j'attends d'avoir 5, 10 points de plus minimum, on va avoir plus que ça, que ce taux sans risque. Donc mes exigences de rendement étant plus élevées, naturellement je vais attendre d'avoir une sortie qui est à la hauteur. Et donc si l'entreprise n'a pas les performances attendues et puis que j'ai en plus un marché qui, du fait de cette hausse des taux, est chahuté du point de vue des multiples de valorisation, je vais pas sortir. Et troisième point, c'est lié à cette hausse des taux, c'est la capacité à faire ces sorties. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces sorties là on les finance avec du cash, ça peut être effectivement de l'argent de la réserve disponible, mais on le finance aussi beaucoup grâce à de la dette. Un des types de sorties partielles ou totales, c'est la sortie par LBO.
Rappelez-nous rapidement comment ça se présente.
Ouais. Un LBO, c'est une opération d'acquisition, donc partielle ou totale, d'une entreprise. Ça peut être une partie des actions, ça peut être même les fondateurs qui rachètent leurs actionnaires historiques, financés grâce à un effet de levier. LBO, c'est leverage buyout, effet de levier, donc de la dette. Donc, naturellement, si vous avez des taux d'intérêt qui sont plus élevés, le coût de la dette est plus important et donc on a besoin en face d'avoir une entreprise qui est beaucoup plus solide, qui a la capacité de rembourser cette dette-là. Donc, des taux d'intérêt plus élevés veut dire des LBO plus compliqués et donc des acquisitions qui sont ralenties.
Voilà, moins de croissance, des exigences de rendement plus élevées, pas de sortie, ni même logique d'acquisition complètement gelée, on peut dire. Bon, il y a un autre aspect qui retient votre attention, qui explique l'état du private equity, si je peux dire, en tout cas sur les 12 derniers mois. C'est ce qu'on appelle, ça va avoir un rapport avec ce qu'on appelle le dry power. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que le dry power.
Alors, c'est dry powder, sèche. La poudre sèche, on sent que le private equity, c'est un monde de petits garçons. C'est la poudre qui est stockée dans les fusils et qui est donc prête à être utilisée. Ça permet. Donc, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence aux fonds qui sont disponibles chez les fonds de private equity, chez les fonds de venture. Qu'est-ce qu'on voit en fait en 2023 ? C'est qu'ils atteignent en fait un niveau record. En 2023, on est à 3,9 trillions de dollars. Alors, comment on explique ça ? En fait, en 2021-2022, les fonds ont levé énormément d'argent. Avec l'inverse de ce qu'on voit en 2023, du fait de la baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étaient hyper bas. Et donc, en fait, l'argent, énormément d'argent, levé par les fonds. Et donc, ça c'est dans les caisses. Deuxième point, au-delà du fait qu'il y a eu des énormes levées de fonds, le contexte économique, la hausse des taux d'intérêt, la volatilité des marchés, a fait que les investisseurs professionnels, et moi je le vois au quotidien, sont beaucoup plus attentistes. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus longs dans leur prise de décision.
Beaucoup plus longs et beaucoup plus sélectifs.
Ouais, en fait, ils ont très peur de se tromper. Ils ont très peur de se tromper. Et donc, en fait, on constate un peu des comportements assez étranges, presque. Qui sont assez étranges, du type vous avez d'un côté des levées de fonds qui sont en moyenne complètement rallongées, de 6 à 9 mois on est passé à du 9 à 12 voire 18 mois de levée de fonds, de temps pour lever des fonds en moyenne, mais à côté de ça vous avez certains deals sur lesquels tout le monde se rue parce que ils ont peur de passer à côté, et là le deal se fait en quelques semaines sur des niveaux de valorisation complètement délirants parce que finalement ils veulent tous investir sur la même chose.
Bon, la poudre sèche, on pourrait dire les cartouches en français. J'essaie de traduire.
Ouais, c'est les cartouches, mais en fait, il y a beaucoup de cartouches.
Les cartouches qu'on a encore en réserve, qu'on n'a pas encore tirées ou qu'on n'a pas encore utilisées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à surveiller ?
Écoutez, je pense que c'est les deux points les plus importants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à surveiller ? En fait, du fait de tout ça, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est les critères. C'est qu'est-ce qu'on doit, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on doit en retenir ? En tant qu'investisseur, ce sujet, donc, je vais le prendre dans le désordre, la dry powder qui est importante, ça veut dire que si on trouve le bon deal,
faut y aller vite.
Faut y aller très vite. Donc, en fait, faut pouvoir être très rigoureux dans la sélection, choisir les bonnes entreprises, en théorie aussi, rentrer à la bonne valorisation. parce que les exigences de rendement sont élevées. Donc, comment on fait pour avoir un rendement important? Bah, ça dépend de la valeur de sortie, mais ça dépend également de la valeur d'entrée. J'ai mon ami Jean-Pierre Nadir qui répète souvent, en investissement en start-up, en capital risque, tu sais pas à combien tu vas sortir, tu sais juste à combien tu vas rentrer.
Oui.
C'est important de rentrer à la bonne valorisation. Alors, c'est contradictoire parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps pour se positionner. Tout le monde veut les mêmes deals. Et donc, parfois, les investisseurs sont prêts à accepter une valo plus importante. Pour autant, bah, il faut rester quand même rigoureux parce que, à la fin, c'est ce qui va déterminer la performance.
On sait combien on paye, on ne sait pas combien, en fait, on va gagner ultimement si on gagne.
Voilà. Bon. Très important parce que les multiples aussi sont mis à mal. En 2023, si on regarde les multiples moyens de valorisation en SaaS, ils ont quasiment été divisés par deux par rapport à...
Tout ce qui est industrie du logiciel sur abonnement.
Voilà, c'est passé à une époque, il y a 3 ans, on était sur des valorisations de 10 fois, 12 fois l'ARR, donc le revenu annuel récurrent. En moyenne, aujourd'hui, c'est plutôt entre 5 et 7 fois. Voilà, donc il y a eu quand même, donc
les divisé par deux quasiment.
Divisé par deux, c'est-à-dire qu'à performance égale, une entreprise se vend moins cher. Là, on le voit de plus en plus maintenant sur les acquisitions. Mmh. On est revenu à quelque chose de beaucoup plus rationnel. On valorise en fonction de multiples de l'EBITDA, donc de la marge et donc de la capacité à dégager de la trésorerie pour, par exemple, rembourser de la dette dans le cadre d'une acquisition.
Bon, ça nous emmène, je me mets du point de vue des investisseurs, ça veut dire aussi qu'on a des perspectives de revente, de sortie plus lointaines. Donc ça veut dire qu'on a aussi en portefeuille des entreprises qui sont toujours là, qui continuent à burner, à utiliser du cash. Et ça, quelle attitude on doit avoir là-dessus?
Il y en a deux. Numéro un, il faut regarder lorsqu'on entre dans une entreprise, ce qu'on appelle le runway. Le runway, c'est quoi en investissement? C'est le temps que va pouvoir tenir l'entreprise avec... le cash, le financement qui va être apporté. Voilà. Donc, quel est le cash burn? Le cash burn, c'est quoi? C'est combien elle brûle d'argent tous les mois. Donc, différence très simple entre recettes et dépenses. Et donc, ça, vous regardez par rapport à l'argent qui est disponible. Ça vous donne le nombre de mois, le nombre d'années que potentiellement l'entreprise va pouvoir tenir. C'est hyper important dans un marché sur lequel potentiellement les levées de fonds, les refinancements de dettes sont au ralenti. Donc, regardez et privilégiez des entreprises qui sont résilientes.
Bon, vous nous parlez finalement de regarder des entreprises qui littéralement sont toujours en mesure de créer de la valeur. Il y avait un exemple dans lequel on voulait s'arrêter, sur lequel on voulait s'arrêter en début d'émission, mais on n'a pas eu le temps. C'est une acquisition par un Français d'un acteur américain. Racontez-nous et utilisons ça comme illustration de ce que vous nous dites.
Effectivement, vous avez on a été annoncé donc le rachat d'IFF Pharma par le groupe familial du Pas-de-Calais Roquette, donc un acteur qui est spécialisé dans tout ce qui est enzymes, protéines végétales et aussi également excipients pharmaceutiques. Les excipients, c'est par exemple, c'est la gélule qui entoure votre médicament. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Qu'est-ce qu'on en apprend? Donc l'acquisition, c'est 2,9 milliards de dollars environ. Pourquoi Roquette le fait? Pour faire de l'intégration verticale de sa chaîne de valeur. Il y a deux façons de faire des acquisitions. On peut racheter des concurrents qui font la même chose que nous pour pouvoir augmenter la surface de chiffre d'affaires et avec des synergies, augmenter les marges parce qu'on mutualise les charges fixes. Ça, c'est une façon de bien créer de la valeur. Parce que la valeur, faut s'en rappeler, en private equity, à la fin, lorsqu'on va faire une revente, que ce soit par LBO ou qu'on va revendre une entreprise, au final, on va regarder l'EBITDA, la capacité à générer de la marge. Donc, faire des acquisitions horizontales, ça permet de faire ça. Il y a une deuxième façon de le faire, c'est de racheter des acteurs qui sont complémentaires et qui sont dans la chaîne de valeur. Donc là, c'est le cas, par exemple. Si moi, justement, je vais vendre des médicaments, là je produis les médicaments pour différents acteurs, avoir la capacité à produire les molécules, les protéines, les enzymes et également le contenant, ça me permet d'avoir des marges qui au lieu d'aller à l'extérieur vont être dans le groupe et donc de créer un EBITDA consolidé plus important. Et autre exemple récent, c'est LVMH qui rachète Paris Match. Alors on peut se dire que c'est là c'est typiquement l'exemple de synergie parce que LVMH, on peut imaginer que dépense énormément d'argent en communication, en publicité. Qu'est-ce qu'ils font en rachetant Paris Match? Finalement, cet argent qu'ils vont dépenser en publicité, il reste dans le groupe. Il crée de la valeur.
Exemple très concret du genre d'investissement qu'on peut regarder, dont on peut s'inspirer, qui crée de la valeur, qui crée de l'EBITDA.
Qui crée de l'EBITDA. Et c'est ça qu'il faut retenir. Finalement, en tant qu'investisseur, on va regarder l'EBITDA. L'EBITDA et la capacité d'une entreprise à devenir de plus en plus efficiente sur sa génération de marge. au-delà de la croissance. C'est la fin de la croissance à tout prix.
Voilà. Améliorer tous les aspects, pas forcément avec de l'IA, mais aussi avec de l'IA. On aurait pu en parler. Il faudrait que vous nous fassiez un petit topo, Alexandre, sur l'impact de l'IA, sur l'intégration de l'IA, sur justement l'efficacité, l'efficience d'une entreprise.
On en parlera. C'est, je pense que tout le monde est en train de travailler dessus. Et ceux qui ne travaillent plus dessus, qui ne travaillent pas dessus et qui n'ont pas prévu d'intégrer ça dans leur roadmap, n'existeront pas dans les... dans 3 ans.
Voilà, Alexandre Leng de Tudigo, qui a encore de la dry powder en réserve pour continuer à vous coacher sur ces sujets de private equity et de comment devenir meilleur investisseur, meilleur analyste, meilleur lecteur des entreprises dans lesquelles vous avez envie de mettre des billes ou dans lesquelles vous avez peut-être déjà mis des billes ou simplement que vous décortiquez pour le plaisir de l'exercice financier et intellectuel. Merci beaucoup Alexandre et toute l'équipe de Tudigo. Vous restez avec nous. On continue à s'occuper de vos finances personnelles dans la deuxième partie de Tout pour investir. On va s'occuper d'un match entre deux villes, Rouen versus Rennes. En tant qu'investisseur, comment se positionner face aux opportunités que ces deux villes représentent? Et puis on continuera à parler d'immobilier ou même de para-immobilier, si je puis dire, puisqu'on s'intéressera à l'investissement para-hôtelier et au co-living. Est-ce que ce sont des alternatives à l'investissement immobilier traditionnel? On verra ça avec Jonathan Anglove d'Agusso Capital. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui s'occupe de vous rendre meilleur investisseur, meilleure investisseuse. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web et bien sûr en podcast. Bonjour à vous tous et toutes qui nous écoutez en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, on va parler immobilier, le match des villes, le match entre Rennes et Rouen. Une vraie bataille avec d'un côté eh bien, la capitale bretonne et de l'autre la belle ville normande. Steve Briand de l'équipe de Net Investissement avec nous pour départager ces deux villes. Le question-réponse du jour portera sur le financement durable. La finance durable qui nous intéresse, mais gros paradoxe entre la demande et la confiance des épargnants, vous le savez. Alors comment construire des normes et des labels cohérents et accélérer sur l'éducation financière et parafinancière des Français et des Françaises? On ouvre le débat avec l'investisseur Eric Blin d'ici 25 minutes. Et puis on réfléchira à comment investir dans le para-hôtelier et peut-être le co-living. Est-ce que ce sont des solutions pour échapper à la crise du logement? Est-ce que c'est une bonne idée? Réponse de Jonathan Anglove d'Agusso Capital en fin de tranche. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité économique avec Stéphane Nicolo.
BFM Business, l'info éco, Stéphane Nicolo.
Et à la une, c'est le dérapage du déficit public. Il atteindrait finalement 5,6% du PIB en 2023 au lieu de 4,9%. Ce matin, Thomas Cazenave reconnaît pour la première fois qu'il sera supérieur à 5%. La France est donc le seul grand pays de la zone euro avec l'Italie à avoir un déficit supérieur à 5%. Une mauvaise nouvelle au moment où les agences de notation vont rendre leur verdict dans les semaines qui viennent. Autre mauvaise nouvelle, ce matin, ça concerne Intel qui met sur pause son projet d'implanter en France son futur centre de R&D européen, selon nos informations. Un entretien en visioconférence entre le PDG du groupe et Bruno Le Maire est prévu cet après-midi. Ce centre devait s'installer sur le plateau de Saclay, moyennant l'embauche de 450 ingénieurs. Mais Intel a changé d'avis. Priorité est donnée au développement des gigafactories. Le groupe a annoncé en ce sens hier 100 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Toutes les informations à retrouver sur notre site internet bfmbusiness.com. Bruxelles organise aujourd'hui le premier sommet mondiale sur l'énergie nucléaire. 50 pays répondent présents. Emmanuel Macron s'y rend pour mettre en avant l'ambition française dans le secteur et lancer un appel au financement, notamment pour les petits réacteurs SMR. Selon le cabinet EY, entre 400 et 700 SMR pourraient sortir de terre dans le monde d'ici à 2050, moyennant 70 milliards de dollars d'investissement par an. Dans le reste de l'actualité, nouvelle grève en vue à la RATP, la CGT appel à la mobilisation le jeudi 4 avril. Le syndicat réclame le versement dès les prochains mois d'augmentation de salaire négociée avec la direction. Vinci réclame 1,6 milliard d'euros d'indemnité à l'État pour l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'était en 2018. Vinci devait en être le concessionnaire. La justice rendra son jugement d'ici 2 semaines. Aux États-Unis, des clients poursuivent Hermès en justice. Ils accusent la marque de luxe de pratiques commerciales déloyales et d'avoir mis en place place un système incitant les consommateurs à acheter de nombreux produits avant de pouvoir prétendre à l'achat d'un sac Birkin. Une pratique qui viole les lois américaines sur la concurrence, selon la plainte déposée. Plainte qui est aussi une class action, ce qui signifie que d'autres consommateurs sont susceptibles de rejoindre la procédure. Reddit va faire ses premiers pas en bourse aujourd'hui à New York. Le réseau social est valorisé à hauteur de 6,4 milliards de dollars. Il devrait lever plus de 748 millions. Il s'agit de la première introduction en bourse d'un réseau social sur le NYSE depuis celle de Pinterest. C'était en 2019. Et puis on termine avec cette avancée spectaculaire pour Neuralink, la start-up d'Elon Musk. Le premier passant doté d'un implant cérébral à un homme tétraplégique est parvenu à jouer aux échecs en ligne par la pensée. La vidéo de l'exploit a été diffusée sur les réseaux X. Neuralink se donne comme objectif de faire remarcher les patients paralysés, rendre la vue aux aveugles ou encore soigner la dépression, Lorraine.
Merci beaucoup Stéphanie. Le CAC 40 qui est légèrement en baisse après avoir battu un record ce matin un petit peu plus tôt. Il est autour des 8159 points à l'heure où on se parle. L'or aussi hein, qui battait un record cette nuit. On prendra Antoine d'ici quelques minutes pour décrypter ce qui se passe du côté de notre CAC 40 et puis du métal jaune dans la suite de Tout pour investir. Rapide publicité et après on parle immobilier avec Marie-Cœur de Roy et notre invité. A tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO, c'est une séquence que vous aimez bien, celle où on oppose des villes l'une contre l'autre. Aujourd'hui, c'est Rennes versus Rouen. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Marie est avec nous et Stéphane Briand est également avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine.
Alors
bonjour,
il est breton, Marie. Il est breton, donc est-il biaisé? Vous êtes en charge du pôle immobilier Net Investissement. Vous avez structuré cette bataille entre deux villes, la Normande, Rouen, la Bretonne, Rennes. Votre cœur balance-t-il ?
Malheureusement, oui, mais l'idée, c'était quand même de rester objectif. Je dois quand même de préciser que Marie est normande. C'était quand même la moindre des choses. On va quand même commencer par ça.
Non, mais c'était une bagarre. C'était une bagarre entre nous. Et moi, je pense que de toute façon, effectivement, c'est biaisé compte tenu des origines de Stéphane. Voilà, je tiens à le dire. Bon, voilà. Mettons un petit peu de contexte sur cet exercice.
C'est-à-dire, on va commencer par le contexte. On verra le résultat ensuite.
À qui ? Aux investisseurs. Hein ?
Principalement aux investisseurs. Et c'est vrai qu'au-delà de la rivalité qu'on va retrouver entre la Normandie et la Bretagne, qui sont bien représentées par ces deux capitales, historique Rouen et Rennes, c'était surtout, je dirais, deux régions qui étaient vraiment en retard en termes d'augmentation des prix, si on le compare à d'autres régions et si on regarde au cours des 10-15 dernières années. Et on l'a vu, il y a des prix qui se sont vraiment envolés. On peut un peu le comparer, la Bretagne, la Normandie, un peu la Gironde, enfin ce qu'était la Gironde il y a maintenant à peu près 20 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de creuser finalement sur ce retard et surtout pour quelles raisons aujourd'hui on a assisté à une ruée vers l'ouest. Je pense que la notion du Covid, le confinement, a remis peut-être un intérêt et un regard des Français.
Vous voyez, nous parler même... de quoi ? De climat.
De climat, oui. L'Atlantique Riviera, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Bon, là, on est un peu plus au nord, mais le fait est qu'effectivement, cette ruée vers l'ouest, elle était née même avant le Covid, au moment où on crevait de chaud et où on s'est dit, en fait, finalement, partir dans le sud de la France ou rester dans les terres, c'est compliqué. Et donc, pourquoi j'irais pas là où il fait plus frais? Donc, cet attrait pour la côte ouest.
Il a été accentué. Et en plus, il va encore s'accentuer avec le réchauffement climatique que tout le monde, en tout cas, voit au quotidien. Il y a encore l'héliotropisme, donc le nord vers le sud qui se maintient. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, les investisseurs, propriétaires occupants, résidents secondaires, ont quand même maintenant, je dirais, un nouvel intérêt et un regain d'intérêt, sinon, pour l'ouest. Donc, c'était intéressant de creuser un peu en détail sur, je dirais, les atouts.
Mais j'ai envie de dire, alors, pourquoi, enfin, Rennes, moi j'en parle, alors Dieu sait que vous l'avez dit, j'ai quelques petites origines normandes, de l'heure, moi en l'occurrence, mais enfin voilà. La question c'est pourquoi Rennes-Rouen ? Parce que c'est vrai que Rennes, pour le coup, ça fait longtemps que j'en parle. L'attrait pour les étudiants, le logement étudiant là-bas, c'est quand même pas rien. Enfin voilà, ça fait longtemps qu'on parle du dynamisme de Rennes. Pour vous, c'était deux villes qui étaient véritablement comparables ?
Alors oui, elles le sont, même si vous avez raison Marie, Rennes est quand même une ville un peu plus mature, qui a déjà prouvé je dirais sur sa croissance. On va le voir en termes de flambée des prix, ça a quand même été assez violent à Rennes, mais ça continue. C'est-à-dire que si on regarde sur 10 ans, ça reste quand même assez intéressant, c'est plus 50% en 10 ans pour un appartement à Rennes, donc c'est quand même assez énorme. Si on regarde ensuite sur 5 ans, ce qui est quand même assez proche et qui correspond finalement à peu de choses près au post-Covid, c'est plus 35% pour un appartement et c'est plus 50% pour une maison.
En 3 ans,
En 5 ans, donc c'est quand même assez énorme et ça montre encore, je dirais, l'attrait pour Rennes, même si en effet, je dirais que Rennes n'est plus à à démontrer ni même à proposer, puisque tout le monde connaît, n'importe quel investisseur, en tout cas connaît et s'est intéressé.
Mais justement, vous ne pensez pas que ça s'essouffle un peu, Rennes ? Moi, j'avais tendance à penser qu'il y avait peut-être d'autres... On parlait la fois dernière, vous êtes venu de Toulouse, par exemple. Est-ce que Toulouse n'est pas le nouveau Bordeaux, le nouveau Rennes ?
Les Rennais qui nous écoutent sont au bord de l'AVC, là.
Non.
Vous avez été avenue Janvier récemment à Rennes, vous avez vu les prix qui ont flambé autour de la gare.
Mais justement,
magnifique gare,
d'ailleurs. Mais justement, exactement. La question, c'est est-ce que ça y est, on n'a pas atteint un plafond, quoi ?
Un plafond, non. Parce qu'aujourd'hui, globalement, si on regarde les prix un peu en détail, on a 3 900 € du mètre carré pour un appartement. Donc si on compare à Nantes, je dirais sa voisine, même si on ne va pas rentrer dans le débat, de Nantes et la Bretagne, là, c'est exactement. En revanche, on a encore un peu de marge. On est en revanche sur des seuils qui ont quand même bien augmenté. On a 5 000 € aujourd'hui pour une maison. En face, on a un rendement locatif qui est encore bon. On est entre 4 à 4,50.
Ouais.
Donc je dirais que Rennes a encore un potentiel. Le solde migratoire est encore bon. On est à plus 0,4, plus 0,5 chaque année. Donc on est au-dessus de la moyenne nationale. Il y a des grands projets qui arrivent, il y a le nouveau CHU. Là, vous avez raison, Marie, c'est que la plupart des gros projets d'envergure, alors certes, la LGV est arrivée en 2017, qui a relié donc Paris et Rennes en 1h30. Il y a d'autres gros projets, notamment Euro-Rennes. On parlait de la nouvelle gare moderne avec le nouveau centre d'affaires qui était hyper connecté. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'éco-quartiers de projets qui sont nés, mais qui laissent en tout cas entre-apercevoir, je dirais, encore une profondeur.
Il y en a encore sous le pied, quoi.
Il y en a encore sous le pied, même si en effet, je pense qu'elle est arrivée à maturité. Et que je pense qu'il y a encore matière à que ça soit intéressant.
Donc on a dit 3 900 € du mètre carré, c'est ça ?
3 900 € du mètre carré.
On est à combien à Rouen ? Faites-moi rêver.
À Rouen, on est à 2 650 € du mètre carré.
Et ouais,
c'est pour ça. C'est vrai qu'on peut peut-être d'ailleurs regarder les notes. C'est vrai qu'à chaque fois, on a tendance à s'emballer, à parler. Mais si on regarde le vainqueur du jour, et désolé Marie,
il l'a fait exprès de toute façon.
C'est la Bretagne qui l'emporte avec une belle note, enfin Rennes qui l'emporte plutôt avec une belle note de 15,2 sur 20. Rouen est juste derrière tout de même avec une belle note de 13,9 sur 20. Et justement, j'allais quand même insister là-dessus. Rennes a quand même déjà cette image mature. Elle est connue en effet pour sa vie étudiantine, ses différents projets. Je dirais son bassin économique qui repose sur l'agroalimentaire, l'industrie, la santé ou encore le numérique. Rouen était un peu moins connu des investisseurs et pour autant...
Plus industriel, Rouen ?
Plus industriel. On le verra aussi qui surfe aujourd'hui sur le numérique avec notamment la Cité de l'innovation qui va être créée à horizon 2026 pour faire vraiment un pôle majeur au niveau, je dirais, de la Normandie. On a des grands projets qui arrivent peut-être, parce que forcément je dois citer à horizon 2033-2035 la nouvelle gare qui est prévue, la nouvelle gare rive gauche, sur, et a priori c'est pas encore définitivement voté, une nouvelle ligne qui permettrait de rejoindre Le Havre en passant par Rouen et qui réduirait qui plus est Rouen et Paris en moins d'une heure. Donc il y a quand même des...
Et ça c'est un atout par rapport à Rennes pour le coup.
Ça c'est un atout par rapport à Rennes.
1h20 en TGV c'est pas non plus Pérou d'aller à Rennes. Hein.
Bien sûr, mais,
ouais,
là,
mais moins d'une heure. Enfin, je pense que psychologiquement on se rend pas bien compte de ça. Il y a beaucoup d'études qui avaient été sorties ces dernières années sur ça.
C'est important cette notion. Ouais.
Surtout sur ces Parisiens, et j'en fais partie, qui mettent déjà une heure Paris intramuros entre leur domicile et leur lieu de travail.
Ouais.
Donc à un moment donné, on paye très cher nos loyers ou nos remboursements de crédit.
Attention Rouen, Marie débarque.
J'arrive. Non, mais il y a un vrai sujet.
Ça, c'est un vrai atout. Et en plus, si on regarde finalement sur un périmètre, que ce soit 100 ou même 200 km autour de Paris, parce que Rouen, c'est 200 km autour de Paris, on peut citer d'autres villes comme Angers, comme Reims, comme Orléans, comme Tours, qui fonctionnent très bien.
Ouais.
Rouen est en dessous en termes de prix. On est à 2 600 €, 2 700 € du mètre carré pour un appartement. On est globalement à 2 900 € du mètre carré pour une maison. On est bien en dessous de toutes ces villes qui rayonnent autour de la capitale.
Mais alors justement,
et qui plaisent aux Français.
Mais alors justement, moi, c'est toujours le sujet, c'est... Quand je fais un investissement locatif, il faut forcément que j'ai une demande de biens à la location. Mm-hmm. Quand on est sur des prix qui restent relativement bas, on se dit que potentiellement l'accès à la propriété est plus simple et qu'il y a peut-être moins de tension à la location. Comment ça se passe à Rouen là-dessus ?
C'est le bon raisonnement, c'est cette notion d'offre et demande et de voir véritablement si le marché locatif est tendu. Il l'est. En revanche, il est quand même bien plus important, je dirais, sur Rennes. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a de moins en moins de vacances locatives à Rouen. On a un marché locatif qui est quand même assez tendu et des prix qui ont quand même augmenté. Ça signifie qu'on a une demande qui est quand même soutenue.
Ouais.
Alors, on a une flambée qui est moins importante si on compare à Rennes. Néanmoins, si on regarde au cours des 5 dernières années, c'est plus 23% à Rouen. Donc, ça prouve, voilà, en tout cas, l'intérêt et la demande qui aujourd'hui s'accrue.
Mais je vais trouver un locataire à Rouen.
Et on va trouver un locataire, je vous le dis.
Vers quel type d'investissement il faut aller ? Parce que typiquement, on parlait de Rennes, ville très étudiante. Donc peut-être que moi, j'irai spontanément sur un studio, un deux pièces. Est-ce que Rouen, c'est le même profil de locataire ? Ou alors est-ce que j'ai plus de famille ? C'est quoi l'idée ?
C'est un peu le même réflexe qu'on a tous, c'est de se dire la ville est étudiante. Forcément, on va cibler une petite surface. À Rennes, ça fonctionne très bien. On a 67 000 étudiants. C'est 30% de la population, donc c'est important. On a tout de même 45 000 étudiants à Rouen. Rouen, c'est 115 000 habitants, donc on a quand même une proportion qui est importante. Donc automatiquement, j'aurais quand même tendance à inciter les investisseurs à aller sur des petites surfaces, petites typologies, type studio T2. En revanche, on le voit aussi sur des T3, T4. Là, on a encore des prix qui sont encore plus accessibles. On a un rendement locatif qui va être plus élevé, avec un risque locatif qui peut être à la rigueur un peu plus élevé, mais en revanche, on a un rendement qui est tout aussi intéressant.
Bon, on compare quand même deux villes. Il faut quand même donner les chiffres de ces villes. Rennes, on est au-dessus de 200 000 habitants. Rouen, on est un peu plus que 100 000, 115 000. Il y a aussi la logique d'agglomération autour. Comment on compare ces deux villes? Je pense notamment, Rennes est maillée par le métro, même si en ce moment, visiblement, il y a une ligne de métro qui ne marche pas trop à Rennes. Comment, en termes de dynamique de ville, notamment par rapport au lieu d'emploi, ces villes sont organisées et comment on peut les comparer?
Alors, elles ont quand même beaucoup de ressemblances. C'est vrai que ce qui les différencie, c'est en effet la surface de la population.
On est
en effet
et la population.
En normand breton, quand même, se ressemblent en général, mais elles se ressemblent beaucoup. On a une gare TGV, on a également deux lignes de métro qui sont présentes aussi à Rouen. On a un réseau de transport doux qui s'est quand même bien développé. Au niveau, je dirais, du bassin économique, il est quand même principalement, je dirais, au niveau du centre-ville et sur la périphérie rennaise. Au niveau de Rouen, c'est encore un peu différent, qui est tout le long des bords de Seine. Donc, il y a quand même des ressemblances. Je dirais des similitudes sur ces deux villes qui sont quand même, je trouve, aujourd'hui comparables. Et c'était intéressant de parler en tout cas de ces deux capitales historiques, de parler un petit peu des projets, de parler aussi un petit peu des prix et des environs, sans forcément rentrer dans cette rivalité de crêpes de Mont-Saint-Michel. Voilà,
il y avait oui, parce que le Mont-Saint-Michel est normand, comme chacun sait.
Mais c'est plutôt la galette saucisse que juste la crêpe.
Mais juste pour revenir sur la typologie, on a parlé de la typologie des biens dans lesquels il fallait investir, peut-être la typologie des investisseurs. Est-ce que justement, on disait Rennes est plus mature et Rouen est finalement plus. Est-ce que par exemple, typiquement, si c'est un premier investissement, vous m'orienterez davantage vers Rennes ou vers Rouen, sachant que Rouen, effectivement, les prix sont quand même moins élevés. Donc peut-être que ça me permet de démarrer un premier investissement à moindre coût. Enfin, pour quel type d'investisseur s'adresse Rouen, s'adresse Rennes?
C'est vrai que Rennes, et j'inclus même maintenant Nantes dedans, va être plutôt dédié à des investisseurs qui ont déjà démarré l'investissement locatif, qui ont déjà sans doute une capacité de financement également plus importante. La notion de risque est quand même assez maîtrisée. À Rennes, je vous disais, c'est une ville mature, le marché économique est mature, on a une vraie tension locative, on a un faible taux de vacances, donc finalement le risque est maîtrisé. On le retrouve aussi sur le rendement qui est un peu moins important. À l'inverse, c'est en effet sur des petits budgets, puisque si on prend globalement un 40 mètres carrés à Rouen, on peut facilement négocier entre 100 à 130 000 euros, que je considère comme accessible. C'est un bon prix d'appel, donc en effet, ça peut correspondre à des petits budgets ou des, non pas des primo-accédants, mais des primo-investisseurs qui se lancent sur le marché, tout en étant quand même raisonné et avec la proximité quand même de littoraux normands qui sont quand même, je dirais aujourd'hui, plus approuvés et plus à démontrer. On peut citer Honfleur, on peut citer Cabourg, Deauville. Donc voilà, c'est quand même
Trouville.
Exactement.
Non, parce que aussi. Bon, on parle toujours que de Deauville, mais c'est Deauville, Trouville.
Il y a aussi Trouville.
Voilà, je tiens.
Donc en effet, si on devait en tout cas distinguer le profil des différents investisseurs, aujourd'hui à Rennes, on va être plutôt sur un investisseur lui aussi mature, qui a déjà investi, qui a une surface financière plus importante. À l'inverse, sur Rouen, où le risque est tout aussi maîtrisé. En revanche, on aura quand même accès à des plus petits budgets. Également, la notion de maison qui est importante à Rouen et qui plaît aussi.
Ça se loue, la maison ?
Ça se loue. En revanche, voilà, il faut être un investisseur un peu plus aguerri, puisqu'en effet, le risque de vacances, la notion de travaux, il faut la maîtriser. Je reviens juste sur la notion de travaux qui est aussi très importante. Et je pense qu'à Rennes, il y a aussi peut-être le coup de fusil, peut-être que le mot est trop fort, mais si on regarde un petit peu sur la Rennes métropole, le nombre de passoires thermiques, ça reste assez faible et c'est cohérent par rapport à la moyenne nationale. C'est 13%, ça représente 23 000 logements, ça reste assez faible. Si en revanche, on s'intéresse au centre historique rennais, là, on s'aperçoit qu'il y a 71% des biens du parc privé
qui sont des passoires.
Qui sont des passoires, E, F et G. Donc là aussi, alors, il y a la petite nouveauté maintenant, ce qui concerne les petites surfaces. Je pense que le centre rennais va être quand même touché, impacté, qui devrait retirer un pourcentage important. Mais néanmoins, pour des investisseurs aguerris qui n'ont pas peur de la notion de travaux, je pense qu'il y a en tout cas
des décotes intéressantes.
Des décotes intéressantes au niveau du
le mot de la fin, Stéphane, Marie, il y a quand même une logique de hausse des prix dans ces deux villes qu'on ne peut pas ne pas évoquer.
Tout à fait.
Sur un horizon 10 ans, expliquez-nous ce que font les prix à Rouen et à Rennes.
Alors, tout à l'heure, c'est que je parlais de flambée des prix de ruée vers l'ouest. On le retrouve justement sur la demande. En résumé, ce qu'il faut retenir, si on se base sur 5 ou 10 ans, Rouen, on a une flambée certes, mais maintenue. C'est plus 23% en 10 ans, donc ça reste, je dirais, contrôlé et maîtrisé à l'échelle nationale. C'est même peut-être faible. On voit une accélération sur 5 ans, puisqu'on bascule ensuite à 20%. à l'instar de Rennes, où là, il y a une vraie, véritable flambée. Mmh. Comme je disais, on est à plus 35% sur 5 ans, c'est énorme, et plus 50%
pour les maisons.
5 ans pour les maisons.
L'attractivité, le mot-clé, comme nous le souligne notre auditeur Michel P. qu'on salue. Merci à tous les deux. Merci Stéphane.
Merci Marion. À vous.
Et l'équipe de Net Investissement pour l'organisation de ce match entre deux villes. Nous travaillons à d'autres matchs. Si vous voulez nous souffler des idées de villes à opposer dans cette logique d'investissement financier, n'hésitez pas. Chère Marie, merci beaucoup. À demain pour une demi-heure de plaisir immobilier avec vous et nos experts et expertes pour décrypter l'actualité du logement et du secteur IMO. Nous n'avons pas pu avoir Antoine à 11h. Antoine est parmi nous. Nous allons faire le point sur le CAC 40 qui battait un record ce matin et qui depuis est légèrement dans le rouge. On part à Euronext. Cher Antoine, nous avons besoin de vos lumières pour comprendre ce que fait le CAC depuis ce matin. Racontez-nous.
Ben oui, on a signé effectivement un nouveau record absolu à 8229 points, très exactement. Et depuis qu'on l'a touché, ça s'étiole. Hein. Moins 0,03% en ce moment pour l'indice parisien. On est à 8158 points. Très nette surperformance des valeurs techno, puisqu'on a un Euronext Tech Leaders qui gagne 2% parallèlement. Le DAX à Francfort, plus 0,36, plus 0,54 pour l'Eurostock 50. Alors, il s'est passé beaucoup de choses ce matin. Record parce que, oui, la Fed a confirmé les orientations plutôt modérées en matière de politique monétaire. Il y aura bien des baisses de taux cette année. Il y a la Banque Nationale Suisse qui a semé un peu le trouble aussi en étant la première à baisser ses taux directeurs ce matin. Donc tout ça a jeté un petit peu de trouble et finalement on a plutôt vendu la nouvelle, ce qui explique ce retournement de tendance. Il y a aussi un retournement de tendance très net autour de Kering qui a bien du mal à se stabiliser après sa très forte baisse d'hier. Le titre perd encore 1,7% à 368,85€. Clairement, il pèse sur la tendance en ce moment parce que l'ensemble du secteur du luxe a embrayé à la baisse encore une fois. Hermès 0,67, 2389, LVMH moins 0,4 à 842,60€. En revanche, il y a quelques belles hausses. Unibail Rodamco Westfield plus 2,11 à 73,52€. Téléperformance plus 2 à 88,10€. On n'oublie pas l'industrie avec notamment l'automobile qui se porte bien. Renault plus 1,6, 45,26 et Stellantis plus 1,56, 27,08. Le CAC moins 0,03, 8159. L'euro 1,0920 Lorraine.
Merci Antoine. Vous allez nous raconter une histoire qui concerne l'or.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
C'est l'histoire d'un autre record qui a eu lieu plutôt cette nuit, de l'or, qui a tapé les 2200$ l'once.
Oui, même plus, hein, 2225, hein, c'est le record absolu hein, sur l'once d'or fin. Les raisons pour lesquelles l'or est à son plus haut, on les connaît parce que ça fait quand même quelques semaines que le métal précieux est en train de battre tous ses records absolus. Déjà, une forme de relativisme monétaire dans laquelle on est plongé depuis la crise de 2008 avec des politiques expansionnistes, des politiques de rachat d'actifs, des politiques accommodantes, moins accommodantes, des luttes contre l'inflation très très agressives de la part des banques centrales, tout ça fragilise la crédibilité entre guillemets au sens monétaire du terme des monnaies et notamment du dollar. Et puis parallèlement, on a un accroissement des déficits un petit peu partout dans le monde pour soutenir l'économie et tout ça affaiblit aussi la crédibilité monétaire des monnaies. Du coup, on se replie sur l'or, on a envie vraiment de valeurs tangibles. L'or en profite à plein avec en plus une petite prime, c'est la volonté de se dédollariser d'un certain nombre de pays émergents, dont la Chine notamment, qui essaie de se défaire un petit peu de ses actifs dollars et d'en être moins dépendant. Du coup, l'once d'or fin, et pas de raison que ça continue pas sur des niveaux records.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour décrypter ce qui se passe du côté du métal jaune. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous depuis Euronext. On va continuer à s'occuper de vos finances personnelles dans la suite de Tout pour investir. On va réfléchir au large sujet de la finance durable. Comment créer de la confiance, notamment autour des labels, mais plus largement dans la culture financière et parafinancière des Français et des Françaises. Débat à suivre avec Éric Blin, juste après la pub. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Comment créer la confiance quand on parle de finances durables entre les labels, le greenwashing, l'envie de faire des choix d'investissement rentables. On est tous un peu perdus, on est tous un peu dans l'hypocrisie. On va essayer de décrypter ce sujet avec vous, Éric Blin. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes président de Chloé in the Sky. Comment créer de la confiance dans la finance durable? Expliquez-nous, avec un œil d'investisseur, les problématiques dont on parle quand on évoque là, la finance durable et notre engouement et en même temps notre réticence à passer à l'action?
En fait, c'est un problème assez contemporain parce que on est dans un monde démocratique abreuvé d'informations et de normes qui sont de plus en plus complexes. Alors, je fais le parallèle avec la grogne des agriculteurs il n'y a pas longtemps sur le sujet des normes. Et sur mon sujet financier, puisque je suis conseiller financier, nous devons exercer notre métier avec un nombre de normes absolument incroyables qui se durcissent, qui se précisent. Et sur le sujet de l'économie dite durable, on a un empilement de normes qui se sont créées depuis le rapport Brundtland de 1987, qui définissait l'économie dite durable, qui intègre l'environnement mais aussi le social. Ça s'est précisé aussi avec Kofi Annan, où on intégrait les sujets environnement, social et gouvernance. On a les objectifs de développement durable avec les 17 articles. Et on voit bien qu'en fait, nous sommes dans une situation où on a un empilement de normes. Et si ces normes-là on les utilise sans avoir une stratégie derrière, ça peut poser un problème et décourager des épargnants. Donc il y a des chiffres qui montrent justement ce paradoxe. Alors,
on est intéressés, mais pas tous, un tiers.
Un tiers, voilà, absolument. Donc il y a un organisme qui s'appelle l'IOPA, qui est un organisme indépendant qui travaille avec la Commission européenne, et qui a publié des chiffres, Lorraine, qui sont très intéressants. On voit par exemple qu'en France, les Français sont très attirés par la finance durable, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, et ça représente à peu près 30% des consommateurs.
Bah, vous dites très, excusez-moi, un tiers des épargnants intéressés par la finance durable, c'est pas monstrueux non plus.
Disons que par rapport à la moyenne européenne, on est dans la fourchette plutôt haute, et surtout les jeunes, 45%. Alors les jeunes, c'est en dessous de 39 ans, donc moi j'en fais plus partie.
Très jeune.
Voilà. Paradoxalement à ça, il y a 58% des consommateurs qui ne font pas confiance aux informations qui sont communiquées par les banques et les assurances sur le sujet des informations, des données extra-financières dites durables.
Bon, ce paradoxe, qu'est-ce qu'il donne ?
Donc, qu'est-ce que c'est que ce paradoxe ? Eh bien, moi, je pense que il y a deux sujets qu'il faut vraiment qu'il faut développer. C'est le sujet des normes et des labels qui partent d'une bonne intention, mais que ces labels-là et ces normes, elles doivent avoir un contexte, une stratégie pour avoir un sens. Elles doivent être établies, construites avec une stratégie derrière. Et il y a aussi un sujet complètement crucial, c'est la pédagogie au niveau du sujet financier et du sujet extra-financier. Parce qu'on parle de sujets qui sont transverses et très complexes.
On va y revenir, puisque c'est la semaine où tout le monde parle d'épargne et de culture financière. Et puis nous, on en parle toujours dans cette émission. Mais d'abord, parlons un petit peu de normes. Parce que ces normes, je le déplore, et je sors de mon rôle de présentatrice, mais on peut quand même déplorer le manque de cohérence, quoi.
Absolument, Lorraine. L'exemple, on va faire un petit flashback de ce qui s'est passé l'année dernière. En 2023, il y a eu une prise de décision très intéressante pour sortir tous les majors pétroliers du label ISR. En fait, ce label ISR intègre ces normes environnement, social et gouvernance. Et l'habitude actuelle des providers, alors ce qu'on appelle providers, c'est ceux qui donnent de l'analyse extra-financière, c'est de faire une moyenne entre des critères E, S et G. On fait une addition, absolument, on fait une addition et on trouve, on dit, tiens, c'est bien ou pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Une entreprise dont on a beaucoup entendu parler, qui a fait l'objet de plusieurs critiques l'année dernière, Total Energy, avait une très bonne note, E, S et G, puisque son positionnement sur des critères sociaux et gouvernance était très bonne par rapport à ses confrères. Par contre, si on parle du sujet environnement, évidemment, on ne peut pas l'inclure, puisqu'on ne peut pas envisager un monde durable et un contrôle du réchauffement climatique en intégrant des pétroliers qui vont extraire de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Donc ça, on voit bien que le problème, il vient dans le manque de hiérarchisation de ces sujets.
Est-ce qu'il y a, Eric, des lettres plus importantes dans le ESG?
Alors,
quand on parle de finance durable,
nous, on est complètement convaincus que le sujet carbone va conditionner beaucoup de choses sur les autres critères. Il y a des enjeux qui sont prioritaires et le sujet carbone est prioritaire.
Le E est plus important.
Le E est plus important. Les autres sujets sont importants, mais ils doivent être regardés par le prisme absolu du E. On va prendre un autre exemple aussi qui a désorienté les investisseurs, les épargnants. C'est le revirement de situation du label Greenfin, qui s'appelait le label Tech auparavant. Et ce label Greenfin, a toujours exclu le nucléaire. Et maintenant, le nucléaire fait partie de ce qu'on peut considérer comme les entreprises qui rentrent dans la sphère green. Mais comment se fait-il que ça ne l'était pas avant ? Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a la commission parlementaire en 2023 qui a mis un peu mal à l'aise tous nos dirigeants parce qu'on voit bien que la filière nucléaire avait été délaissée alors qu'elle permet de répondre positivement au sujet du réchauffement climatique. Et on voit bien que le label, là, a pris la décision de l'intégrer. Et donc, en fait, ça traduit quoi ? Un manque de vision. Il y a un manque de vision sur des sujets qui sont stratégiques, industriels et énergétiques.
Bah, un manque de vision de ce qu'est le monde.
De ce qu'est le monde et de ce que sont les industries. Et Lorraine, quand vous m'aviez invité l'année dernière, j'avais fait le parallèle entre des industries qui sont essentielles et d'autres qui le sont moins. Et on voit bien que dans la manière, dans la pratique des sociétés de gestion de manière classique, avec cette manière d'intégrer tous les critères en même temps, on retrouve des entreprises qui globalement vont avoir un impact très faible par rapport à d'autres qui sont essentielles. Donc là, je reviens sur mon sujet, mon cheval de bataille, les industries lourdes. Si on investit sur L'Oréal, sur LVMH, Pernod Ricard, Kering, etc., ou même certaines industries pharmaceutiques, on va avoir des industries qui seront en capacité de proposer des services, de fabriquer des biens, en étant sobres en énergie, être bons sur les critères E, S et G. Mais ce n'est pas le cas forcément des industries lourdes. Extraire des métaux, la chimie, la métallurgie, le fret, ce sont des entreprises qui sont sales, intrinsèquement sales, et qu'il ne faut pas oublier dans ces critères ESG. Donc, et en plus, quand on prend le sujet des mines, les mines se trouvent généralement dans des pays où les normes sociales ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc quand elles se trouvent en Amérique latine, en Asie ou en Afrique, comment intégrer ces critères ESG, sachant que la transition énergétique ne pourra pas se faire sans ces industries-là ?
Vous nous dites, ça c'était une de vos phrases, je me souviens, pour faire du green, il faut faire du sale.
Il faut
le dire.
Se retrousser les manches et mettre la main dans le cambouis un peu. Et les sujets extra-financiers ne donneront, en tout cas, les critères ou les labels n'auront pas de sens à partir du moment où il n'y aura pas une stratégie industrielle et financière derrière.
Bon, vous nous dites globalement, il faut bien voir ce qui se passe, vivre avec le vrai monde, regarder comment déjà consomment et utilisent des ressources les entreprises. Mais vous nous dites, il y a aussi cette notion d'éducation financière et d'éducation para-financière des investisseurs, des épargnants qui nous écoutent, qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Lorraine, c'est exactement ça. Il faut une pédagogie. On est sur des sujets complexes et transverses. Vous m'aviez invité l'année dernière et j'avais parlé du sujet carbone. Le sujet carbone est contre-intuitif. J'ai envie de faire le parallèle avec de l'astrophysique. Entre la Grèce antique, Copernic, Galilée, on a compris que nous n'étions pas le centre de l'univers et que la Terre était ronde et pas plate. Le sujet carbone, c'est pareil, il est contre-intuitif. Nous sommes les premiers à avoir dit qu'un placement financier peut être bas carbone, aligné sur les accords les plus ambitieux de la COP21 à 1,5 degré, tout en émettant plus de CO2 que son indicateur. C'est bizarre quand même. Et ça veut dire qu'on regarde, ça dépend du référentiel. Donc si, par exemple, je reviens sur l'astrophysique, le référentiel c'est la Terre, le monde tourne le monde tourne autour de nous. Si le référentiel c'est le Soleil, nous tournons autour du Soleil. Si le référentiel c'est le centre de la galaxie, le système solaire et la Terre tournent autour de la galaxie. Pour le carbone c'est pareil, il y a une notion qu'on appelle la Scope 4, c'est un référentiel, c'est les entreprises, ce qu'elles peuvent apporter, contribuer, ce qu'elles peuvent faire contribuer aux autres pour réduire leurs émissions carbone. Et c'est ce référentiel, cette pédagogie qui est nécessaire pour que les épargnants comprennent de quoi on parle, puisque c'est complètement contre-intuitif. La même chose sur la biodiversité. Le sujet carbone et le sujet de la biodiversité sont complètement liés. Mais ça, il faut de la pédagogie pour l'expliquer. Après, sur le sujet financier, ça devient... en France, on a un petit peu du mal par rapport à ça et par rapport à une comparaison sur des pays anglo-saxons où les épargnants sont plus actifs sur le sujet financier. Il faut revenir sur une réalité du vrai monde, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les industries. Et pour ça, je me suis amusé à prendre des exemples des industries qui sont complètement essentielles pour des secteurs industriels qui ont le vent en poupe actuellement.
Exemple.
Exemple, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, chère à Maury, qui est très intéressant, et aussi, par exemple, le sujet des pharmaceutiques. Et j'ai demandé à ChatGPT 4.0 de me sortir la liste des industries qui sont essentielles pour son existence et de m'en faire la liste.
Alors, qu'est-ce que ChatGPT vous répond aux industries essentielles de l'IA, des cryptos et de la pharma ?
Systématiquement la même chose. Donc, on retrouve l'extraction et produits, production de matériaux, on retrouve les mines extraction des terres rares, on retrouve l'extraction des métaux, les industries pétrochimiques, tiens donc, après traitement et raffinage des métaux et des terres rares. C'est intéressant les terres rares, puisque 60% sont extraits en Chine et 90% sont raffinés en Chine aussi. Les industries chimiques, etc. Je vais pas refaire toute la liste, mais on retrouve aussi dans la fabrication des composants et des matériaux, on sait qu'une entreprise comme Nvidia, elle vend en poupe et construit des serveurs pour servir la cause de l'intelligence artificielle. Bah, ça, c'est pareil, il faut de la métallurgie, il faut de l'alliage, il faut de la production de semi-conducteurs, les industries de verre et de céramique, etc., qui sont très énergivores. La même chose pour la crypto-monnaie. Exactement la même chose aussi pour les industries pharmaceutiques ou par exemple les industries de traitement des déchets très importantes. On sait que les antibiotiques qui sont rejetés massivement dans la mer posent des problèmes puisque on les réabsorbe et à ce moment-là ça peut rendre les antibiotiques inopérants à un moment donné, donc ça peut être un gros problème de santé publique. Donc on voit bien que tout notre système économique repose sur des industries qu'on appelle les industries lourdes, qui sont les piliers de toutes les autres, sans exception, et notamment des entreprises phares de la Silicon Valley.
Bon, la conclusion à tout ça, Eric ?
Bah, la conclusion, c'est que pour faire des bons choix, il faut s'informer et aussi essayer d'avoir une vision holistique et systémique de ce qui construit notre monde, c'est-à-dire de quoi nous avons besoin pour que la Terre elle tourne. Et quand on parle du sujet, par exemple, qui plaît, quand on parle de green, de la transition énergétique nécessite de mettre, de faire du, il faut du sale pour faire du propre et intégrer des entreprises qui posent des problèmes. Et la pédagogie, alors c'est vraiment le sujet sur lequel on a essayé de travailler avec Low in the Sky, c'est trouver une manière ergonomique de présenter des sujets qui sont transverses et de les rendre accessibles pour le commun des mortels à un niveau qui n'a jamais, qui n'existe pas pour le moment.
Voilà. Et pour vous, investisseurs, investisseuses, qui réfléchissez, qui regardez ces entreprises dans lesquelles vous pouvez investir avec un œil critique, c'est toute une question aussi de stock picking des industries dans lesquelles vous choisissez de mettre des billes. On a besoin des industries lourdes européennes, il faut les soutenir, il faut faire du sale pour faire du propre, vous nous dites, et nous aussi en tant qu'investisseurs et citoyens européens, eh bien, on a notre rôle à jouer dans cette vision réaliste financière du monde et industrielle.
Absolument.
Merci beaucoup, Eric Blin, président de Chloé Energy Sky, d'avoir réfléchi avec nous sur comment créer de la confiance dans la finance durable. Mais je dirais même au-delà de créer de la confiance, simplement être dans l'observation de ce qu'est le monde aujourd'hui, avoir de la cohérence financière et surtout réfléchir à comment on anticipe le monde de demain avec ce qu'on a aujourd'hui. Merci, Eric. Vous restez avec nous.
C'est le rêve.
On va finir cette émission en reparlant de la crise immobilière comme investisseur. On va se demander si c'est une bonne idée d'aller mettre des billes dans, par exemple, le para-hôtelier ou le co-living, dans un monde qui change aussi, avec des villes qui se restructurent. Comment on fait comme investisseur pour essayer d'échapper à la crise et bien placer son argent ? On réfléchit à ça dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, on continue à parler d'immobilier dans cette émission, c'est un sujet qui vous est cher. Et on va réfléchir à, y a-t-il une manière d'échapper à la crise du logement ? Comme investisseur. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Jonathan Glove, fondateur d'Agusso Capital et aussi d'Aircall côté tech. Il y a une crise du logement, il n'y a pas assez de logements, les prix montent. Mais pourtant, il y a des zones d'investissement potentiel. Vous allez nous parler notamment de para-hôteliers et de co-living. Petit topo, carte blanche à vous Jonathan.
Alors rapidement, oui, en effet il y a une crise du logement et on s'enfonce un peu dedans malheureusement. Et le co-living, on va dire que c'est Pour ceux qui connaissent pas, c'est la colocation 2.0, peut-être 3.0, je sais pas.
La colocation de luxe surtout, non ?
C'est ça, c'est une colocation un petit peu plus luxe que la colocation d'étudiants qu'on a, je pense, à peu près tous connu quand on était étudiant ou en échange. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe dans les grandes villes parce que il y a une demande des gens de vivre dans des beaux appartements et de vivre finalement avec d'autres personnes, surtout quand on n'est pas marié ou pas en couple. Et donc l'éco-living se développe. Pour la petite histoire, un petit chiffre que j'ai relevé qui est assez intéressant, en 2020 il y avait 2600 lits de co-living en France, donc on parle en lits, on pourrait parler en chambres également. En 2023 c'est 14 300, donc c'est un peu plus de x5 quoi. Donc ça veut dire que vraiment il y a une appétence pour ça et ça plaît. Les personnes qui vivent dans les co-living sont plutôt heureuses. Je crois que c'est 80% des personnes vivant dans la co-living sont contents du co-living dans lequel ils vivent, ce qui est plutôt positif. Maintenant, comme toute bonne affaire, il y a des mauvaises affaires. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans les villes ? Malheureusement, les mairies sont pas contentes. Pourquoi ? Parce que évidemment, qui dit co-living dit que les appartements familiaux qui appartiennent à des propriétaires, des investisseurs comme vous et moi, on achète ces appartements, ces maisons qui sont en général des appartements familiaux ou des maisons familiales, et on va les transformer en co-living. Donc en fait, on va enlever, les investisseurs vont enlever, les mairies considèrent en tout cas que les investisseurs enlèvent du marché des produits familiaux, et donc ça rend l'habitat pour une famille beaucoup plus compliqué. Et en effet, c'est beaucoup plus intéressant pour l'investisseur.
C'est-à-dire que dans un marché de location tendu, on oppose d'un côté un besoin étudiant, si je résume, parce qu'on est plutôt
étudiant ou jeune actif,
jeune professionnel ou étudiant, et en face aussi un besoin de grand appartement pour les familles recomposées
dans une ou les familles tout court,
où il y a les familles sont plus ou moins nombreuses, mais en tout cas voilà, où il y a un besoin d'appartement familial.
C'est ça, les appartements familiaux aujourd'hui c'est une offre qui est très rare. Et d'ailleurs, je me suis amusé, on va en parler juste après, mais je me suis amusé à regarder un petit peu sur Se Loger juste avant de venir, le nombre d'appartements familiaux actuellement à Paris pour des plus de 3 chambres. C'est quelques centaines, c'est très peu.
Car oui, à Paris, 3 chambres, c'est un appartement familial.
Pour les petites familles parisiennes. Non mais en fait, mon point, c'est... Il y a clairement un problème aujourd'hui qui se joue avec toute cette régulation que les mairies essayent de faire et l'encadrement des loyers. Donc il y a plein d'effets pervers. Donc encadrement des loyers, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et c'est normal, ils veulent gagner plus, donc ils créent des co-living et donc ils enlèvent du marché des appartements qui étaient dits familiaux, et les mairies commencent un peu à contre-attaquer,
notamment à Bordeaux. Racontez-nous.
Notamment à Bordeaux où en fait dans certains bâtiments il faut faire des demandes spécifiques. Et l'investisseur en question, qui est un investisseur que je ne citerai pas, qui est spécialisé dans le co-living, n'a pas obtenu son permis de construire modificatif selon la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Donc ça, c'est une première un petit peu, c'est récent, et les mairies vont commencer un petit peu à serrer la vis justement pour empêcher de complètement déserter la location des appartements familiaux, parce qu'en effet on a besoin aujourd'hui de aussi pouvoir loger les familles et pas que les individus dans des co-living.
Jonathan, vous nous dites le co-living c'est devenu une pratique courante, on parle de Paris, on parle de Bordeaux, est-ce qu'il y a d'autres villes de France très identifiés comme des lieux où le co-living a la cote?
Bien sûr, à Lyon, énormément. La mairie, d'ailleurs, s'en désole un petit peu. À Marseille, qui font aussi la chasse au Airbnb en général. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on cherche des endroits pour un petit peu éviter l'encadrement des loyers. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été historiquement contre les encadrements de loyers, parce qu'en fait, on casse le marché, on laisse pas le marché s'autoréguler. Aujourd'hui, si on met des prix, un prix n'importe quoi sur un appartement de 100 mètres carrés, normalement, il va pas se louer, le marché va autoréguler. Et à force de mettre de l'encadrement, les propriétaires, les investisseurs cherchent des alternatives et on crée des effets pervers. Petite autre statistique que j'ai relevée ce matin, je me suis amusé, avant de venir, je voulais t'amener des petites choses croustillantes. Je me suis amusé à regarder dans le 16e et le 8e arrondissement, qui sont des arrondissements de Paris relativement connus pour des appartements familiaux. J'ai regardé un maximum de 5000 euros de loyer et 100 mètres carrés minimum, avec 3 chambres minimum. Donc il y a seulement 56 biens actuellement en location. Et 50% de ces biens, tenez-vous bien, sont en bail code civil. Donc ça veut dire en bail moins d'un an. Pourquoi ? C'est pour pouvoir mettre des loyers plus élevés et pour éviter l'encadrement des loyers. Et moi je trouve ça triste que du coup on se retrouve en tant que famille à ne pas pouvoir se loger juste parce que on s'est amusé à encadrer dans tous les sens et ça crée ces fameux effets pervers qu'on trouve mais qui sont pourtant des effets de marché intéressants.
Vous avez relevé ce que fait Bruxelles qui est confronté au même sujet. Qu'est-ce qu'on fait en Belgique ?
Eh ben Bruxelles essaye de réguler. Pourtant la Belgique n'est pas connue à l'origine pour être un pays fort en régulation et pourtant c'est un petit peu parti dans tous les sens, notamment à Bruxelles. Et donc, la ville a décidé de taxer ce phénomène en taxant à la chambre à hauteur de 1 500 € par an, ce qui correspond à peu près à 127 € par mois, par chambre en co-living. Donc, ce qui va quand même un petit peu abîmer le business des investisseurs. Mais aujourd'hui, c'est encore une zone grise. Donc, les investisseurs, si vous avez des appartements aujourd'hui de grande taille, en effet, c'est une niche intéressante à explorer, le co-living. Mais attention à la régulation qui risque de nous rattraper un jour, comme sur le Airbnb. Il y a eu l'âge d'or du Airbnb et il est malheureusement terminé.
Voilà, Jonathan Anglove qui sonne la fin de l'âge d'or du co-living. Aujourd'hui, un investissement en co-living, c'est quoi le ticket d'entrée moyen?
Alors, c'est difficile de parler de ticket moyen d'entrée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un appartement familial. Alors, je prends l'exemple de Paris, je suis un petit peu biaisé, mais on peut regarder n'importe quel appartement familial dans les grandes villes ou même dans des un petit peu plus petites villes. Je prends l'exemple de Paris parce que c'est facile. Un appartement de 120 mètres carrés en encadrement des loyers à Paris va être environ à 4 000 €. Sur la tranche haute d'un encadrement de loyer avec 5 chambres, donc voilà, c'est des petites chambres.
Le loyer sera autour de 4 000 €.
Loyer de 4 000 €. Maintenant, en co-living, ce même investisseur, s'il fait un co-living dans cet appartement, et au lieu de faire 5 chambres, il va faire 4 chambres, il va louer 1 500 € la chambre environ, et il va faire 6 000 € par mois, du coup, au lieu de 4 000 €. Donc c'est quand même presque 50% si on déduit les charges, etc.
Voilà, pas assez de logements, les prix qui montent et cette opposition maintenant qu'on observe sur une typologie particulière de grands appartements familiaux qui peuvent être transformés en co-living. En tant qu'investisseur, est-ce que ça vaut le coup? Jonathan Anglove d'Aguesso Capital vous a apporté un éclairage. Voilà, investir autrement dans l'immobilier, peut-être sur le co-living. Le para-hôtelier, c'est ça, on appelle ça le para-hôtelier?
Oui, on peut parler de para-hôtelier, oui.
Merci beaucoup, Jonathan. À une prochaine pour un décryptage d'une autre tendance immobilier et investissement. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Merci à vous toutes et tous pour vos nombreux messages. Vous continuez à nous écrire. Vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes sur votre plateforme préférée, qu'elle soit européenne ou américaine, et puis aussi sur le site et l'application de BFM Business. Demain, le point sur la semaine crypto. Amaury Tonquédec sera de retour. Et puis, on réfléchira à comment interpréter un événement de marché déjà pricé. On vous coach demain avec Marc Raffard du Café de la Bourse, comment comprendre les dynamiques de marché. Et voilà, ces événements qu'on dit déjà pricés par le marché. D'ici là, vous restez branchés sur BFM Business. Sandra Gandoin prend les manettes.
Bonjour Sandra.
Dans Avec Vous, on s'occupe de vous, entrepreneurs, investisseurs. Non, pas trop, investisseurs, c'est chez moi.
Ouais, indépendants, salariés. Ouais, c'est le passage, effectivement.
Le
monde de
l'entreprise,
effectivement. On va parler de contrat de travail, de délai de paiement, de comment retrouver un job quand on envoie plein de candidatures. Et puis cette question, est-ce que les entreprises ont de moins en moins la cote par rapport à la création d'entreprises? Ces questions, mais aussi toutes celles que vous allez nous poser à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr et sur les réseaux sociaux. On est en live à partir de midi. Suivez-nous et posez-nous toutes vos interrogations, évidemment, on est là.
Voilà, midi 13h, la libre antenne de l'économie. Vous restez branchés, vous allez déjeuner, vous revenez. Il est 15h, c'est l'heure de BFM Crypto, le club avec Stéphane Pedrazzi aux manettes. L'émission qui vous fait vivre toute l'actualité Web3 et crypto, c'est sur BFM Business. Également à 21h30 et en podcast. On se quitte avec le Bitcoin qui se négocie autour de 66 999 $. Alors on se parle 11h56 sur BFM. À demain.
Tout pour investir sur BFM Business.